Voici l'enregistrement du 10e lundi cosmopolite enregistré à la Maison Commune à Ixelles. Il s'agit d'un programme mensuel qui explore la super multiculturalité de la région bruxelloise. Il a été diffusé en direct le 7 octobre 2024 sur l'antenne de Radio Air Libre au 87.7 de la bande FM. C'est la journaliste de La Libre Belgique, Mariam Benayad, et le politiste Henri Goldman qui animent le débat. Ils ont plongé leur micro ici dans le social, un enjeu peu visible des élections communales.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ceux qui sont dans la salle de la Maison Commune, et puis ceux qui nous suivent sur Radio Air Libre, et puis ceux qui vont nous suivre sur le Facebook Live. Bon, alors merci d'être avec nous pour cette soirée qui est un peu bizarre finalement. Elle porte un nom qui n'est pas très sexy, les CPS, enjeu peu connu ou mal connu des élections communales. Maintenant, si vous suivez un peu la campagne, si vous allez voir sur tous les médias, toutes les communes, on passe toutes les communes en revue, vous avez les têtes de liste, on discute des questions dont on cause. Et on ne cause pas des questions sociales parce qu'elles ne sont pas très sexy. Les questions sociales, en plus, sont beaucoup moins médiatisées, puisque c'est d'ailleurs un point qu'on soulèvera peut-être dans cette soirée. Les réunions du conseil du CPS, vous ne savez pas ce qui s'y passe, sauf si vous êtes vous-même conseiller, puisque c'est des réunions fermées. Alors ça a des effets particuliers sur la manière dont on discute dedans. On abordera peut-être ça avec les gens qui sont dedans et qui pourront en parler. Mais voilà. Donc ça n'empêche que si on n'en parle pas, les politiques sociales, c'est quelque chose de très important dans une ville comme Bruxelles, qui est quand même assez clivée sur le plan social. Et donc, je ne vais pas vous mentir, nos deux experts sont deux experts engagés. Hein. D'habitude, on essaie d'avoir des universitaires. On a essayé, d'ailleurs. Il y a des universitaires qui ont fait du très bon travail autour de l'histoire des CPS, etc., avec une distance dont je ne suis pas sûr que Yves Martens et Lucas Chicha auront. Hein. Donc, ils sont professionnellement, idéologiquement engagés dans la défense des allocataires sociaux. Je crois qu'on peut dire ça. Ce qui ne veut pas dire que leurs propos seront complètement inutiles. On va apprendre des choses. Moi, je vais en apprendre, en tout cas. Je leur ai posé des questions et je suppose qu'ils vont nous répondre. Alors, ils vont faire ça en duettiste. Hein, je ne sais pas encore comment, qui va faire quoi. Il y aura de l'historique, il y aura du théorique, il y aura du factuel, il y aura du présent, il y aura du futur. Et sur cette base-là, on va interpeller nos quatre invités, qui sont eux des acteurs politiques, de la question des CPS, en ayant des fonctions ou en aspirant à en avoir. Hein. Et ça, ce sera, comme d'hab, la partie que Mariam animera tout à l'heure. Donc, Yves Martens, alors il a quand même, sur son curriculum, une fonction scientifique, puisqu'il est professeur invité sur les matières sociales à la Haute École de Bruxelles, Elia Prigogine, à l'ancienne école sociale. Par ailleurs, il a travaillé dans une petite institution dont on vous parlera peut-être, qui est le collectif contre l'exclusion, qui est un machin qui est plus ou moins subventionné par les deux organisations syndicales, ce qui vous montre un peu où ça se situe. Et puisqu'on parle d'organisations syndicales, notre autre expert, c'est Lucas Chicha, qui lui travaille au service d'études de la CSC, pour un peu vous situer les deux gars. Bon, ben, qui commence de vous deux? Yves Martens.
Je vais vous faire un petit topo historique. Je vais le faire bref, mais en essayant, donc excusez-moi pour les raccourcis que je vais faire, mais l'idée c'est quand même de pouvoir vous brosser quelques étapes de l'histoire de l'aide sociale en Belgique et de pointer notamment les éléments qui sont intéressants, pertinents, parce qu'on en trouve encore des traces aujourd'hui. À la base, en fait, la pauvreté n'est pas une question sociale dans les sociétés anciennes, donc des sociétés qui vivent dans des toutes petites communautés, qui sont fort proches, dans des petits villages, et où, quand quelqu'un est pauvre dans la communauté, eh bien, il est pris en charge par la communauté. Il y a une solidarité qui se fait naturellement, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un d'étranger. Et on va avoir progressivement, avec le développement des villes au Moyen-Âge, si vous voulez, avant le XIe siècle, on est vraiment dans ce modèle purement de prise en charge rurale. Et avec le développement des villes, en particulier à partir du XIe siècle, on va avoir davantage de déplacements, davantage de personnes étrangères. Jusque-là, il y avait des gens qui se déplaçaient et même des gens qui se déplaçaient en mendiant. C'était les pèlerins. Et les pèlerins, ils étaient bien vus, puisque le pèlerin, dans un Moyen-Âge qui est très religieux, il a évidemment une image tout à fait positive. Et d'ailleurs, chacun même quand il avait très peu de moyens, accueillait le pèlerin et lui assurait le gîte et le couvert. Certains d'entre vous ont peut-être entendu encore des histoires de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, où surtout à la campagne, on gardait encore une assiette à la table pour s'il y avait un étranger de passage qui passait. Donc c'était un étranger qui était positif. Même quand on a le développement des villes, le pauvre garde, dans le Moyen-Âge très chrétien, garde une image positive parce que finalement, le pauvre, il a le visage du Christ en fait. Le Christ s'est présenté aux hommes, disent les évangiles, comme le plus simple, le plus pauvre de tous. Et donc, en fait, quand le riche, il aide le pauvre, eh bien, d'une certaine manière, non seulement il fait une bonne action qui lui servira, mais plus que ça encore, il a le meilleur intercédeur que possible auprès de Dieu. D'ailleurs, vous connaissez l'expression souvent « Dieu vous le rendra », que dit souvent au centuple même, que va dire le mendiant au pauvre qui l'aide. Quand il y a une personne importante, que ce soit dans la communauté religieuse ou dans les seigneurs qui meurent, eh bien, les pauvres du coin vont faire des prières pendant 7 jours et ils vont recevoir une aumône pendant cette même période. Donc, on est avec, petit à petit, avec le développement des villes, on va commencer à se demander si les gens qui vagabondent, qui vont de ville en ville, sont bien des pèlerins ou est-ce que ce ne serait pas des pauvres qui ont été chassés d'un autre endroit ? Une des choses principales qu'on faisait au Moyen-Âge quand on punissait quelqu'un si on ne le tuait pas, c'était le bannir. On n'emprisonnait pas les gens. Et donc, notamment, donc la personne qui va vagabonder de ville en ville va devenir suspecte. Et progressivement, on va avoir un autre regard beaucoup plus négatif envers ces personnes. Avec une grande différence, et là on arrive à quelque chose qu'on connaît encore maintenant, on va faire une distinction entre les pauvres qui travaillent mais qui sont pauvres malgré leur travail, les pauvres qui sont capables de travailler mais qui ne veulent pas travailler, et les pauvres qui ne sont pas capables de travailler. Alors ceux qui travaillent, c'est bien. Ceux qui ne peuvent pas travailler mais qui sont trop malades ou trop faibles pour travailler, on va s'en occuper, on va créer des hospices d'abord religieux, puis progressivement des hospices civils également. Et évidemment, ceux qui ne veulent pas travailler, là, c'est ceux qui sont évidemment tout à fait des parias. Et progressivement, on va aller vers des mesures de plus en plus répressives. La loi Lejeune sur le vagabondage, elle est concomitante fin du 19e avec les premières lois sociales également. En fait, on va donc garder cette typologie des personnes qui sont soit des pauvres, c'est pas leur faute, ou des pauvres, c'est leur faute. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et on va aller jusqu'à les mettre au travail forcé. On pouvait les condamner aux galères, à les mettre dans des manufactures où on les éduquait par le travail. Que ce soit quand le pauvre était pris en charge par la communauté ou ensuite quand on va l'aider progressivement avec des aides sociales, on va le faire toujours à condition de l'ancrer localement. Et on va l'ancrer localement principalement pour garder un contrôle social sur lui. Et donc on a déjà une origine de l'aspect communal de l'aide sociale. Et puis quand en 1925 on va avoir la loi organique qui crée les CAP, donc une loi organique c'est la loi qui crée l'organe, eh bien, on va avoir cette fusion des bureaux de bienfaisance et des hospices, et on va institutionnaliser ce rôle d'élus communaux qui vont intervenir dans la gestion de ces CAP. La grosse difficulté de cette loi de 1925 qui crée les CAP, c'est que par ailleurs, elle ne crée pas une loi qui détermine comment on va donner l'aide. Et dès lors, ça va être complètement subjectif, complètement arbitraire, avec des variations très très fortes d'une commune à l'autre. Chose que, malgré les lois qui sont venues après, on retrouve également encore aujourd'hui. Donc, à partir de fin 44, on va avoir une sécurité sociale qui va se développer de manière très très forte, de moins en moins de gens qui se retrouvent à l'aide sociale, et une aide sociale qui va être de plus en plus critiquée, puisque, à côté de la sécurité sociale qui fait ses preuves et qui est fort balisée, cette aide sociale qui ne l'est pas posait problème. En outre, les aides qu'on apportait étaient principalement des aides en soins de santé, en nourriture, et très peu en argent. Et de plus en plus est venue l'idée d'avoir la création d'un véritable revenu minimum socio-vital qui est apparu enfin, alors que pendant toutes les années 60, on fait des grands travaux là-dessus, en 74 avec la loi sur le Minimex qui a été ensuite remplacé en 2002 par la loi sur le droit à l'intégration sociale. En 76, on crée en même temps que la fusion des communes les CPS avec la loi organique des CPS et on peut dire dès lors facilement dans la loi que chaque commune doit avoir un CPS, ce qui était plus facile avec les un peu moins de 600 communes d'après fusion que les 2300 d'avant la fusion, évidemment. Cette loi de 76 est très importante aussi parce que, outre la loi de 74 sur le Minimex, la loi de 76 va consacrer l'aide sociale avec aussi un certain nombre de règles. Puis on va voir en 93 une grande étape aussi avec, on est dans des périodes d'austérité, un grand plan d'accompagnement des chômeurs et dans le plan d'urgence pour une société plus solidaire également, on va avoir à ce moment-là la première trace de la contractualisation de l'aide sociale pour les jeunes de moins de 25 ans et l'instauration de ce que tous les connaisseurs du secteur appellent PIS, qui est le projet individualisé d'intégration sociale. En 2002, avec la réforme de la loi Minimex qui a été remplacée par la loi de 2002 sur le droit à l'intégration sociale, qui est la première grande mesure d'état social actif en Belgique, on va insister encore plus sur cet aspect d'intégration par l'emploi, en disant d'ailleurs que l'intégration sociale doit se faire d'abord par l'emploi et seulement pour les personnes qui ne seraient pas mises à l'emploi, de manière résiduaire, par un revenu d'intégration. Dans les faits, spoiler alerte, l'écrasante majorité des gens qui sont aidés par le CPS ne sont pas mis à l'emploi par le CPS, elles sont aidées par un revenu d'intégration. Donc cet objectif affiché ne s'est pas concrétisé dans les faits. On est en fait dans un rapport 90% plutôt, 90%, 10%. Et d'ailleurs, les CPS généralement se donnent comme objectif de mettre 10% de leurs bénéficiaires à l'emploi et généralement, ils n'arrivent même pas, pour la plupart, à remplir cet objectif. Il faut signaler aussi que sous le gouvernement Di Rupo en 2012, avec la sixième réforme de l'État, tous les aspects marché du travail ont été régionalisés et qu'on a considéré que la mise à l'emploi par les CPS, le fameux article 60 que vous connaissez sans doute, qui en fait est l'article 60 paragraphe 7, et l'article 61 ont été considérés non pas comme une mesure d'intégration sociale, mais comme une mesure d'emploi et ont donc été régionalisés. Bon, il y a eu plein d'autres choses dans le cadre de cette réforme de l'État, mais aussi une partie de la loi organique a été régionalisée. Il y avait déjà eu des parties qui avaient été régionalisées précédemment, mais là, ça touche moins l'aide sociale qui est dans la loi organique. La partie aide sociale est restée fédérale. C'est plus sur le fonctionnement des CPS que les modalités ont été régionalisées. Et alors enfin, sous le gouvernement Michel, on a eu un renforcement encore de la contractualisation avec l'extension du PIS à tous les nouveaux bénéficiaires. Et on considère qu'un nouveau bénéficiaire, celui qui n'a pas bénéficié de l'aide sociale pendant les 3 mois précédant sa demande. Donc il y a des va-et-vient, évidemment. Et aussi l'instauration du service communautaire. Et comme Henri l'a dit, donc effectivement, nous sommes plusieurs à nous être engagés à l'époque contre la loi Borsu, aussi contre les aspects, contre le secret professionnel, mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais notamment contre le service communautaire, qui était une forme de mise à l'emploi forcée et gratuite des bénéficiaires du revenu d'intégration. Et on a, avec le collectif Solidarité contre l'exclusion, la Ligue des droits humains et quelques autres assos, on a déposé un recours contre le service communautaire à la fois devant le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. On a gagné à la Cour constitutionnelle. Donc ce service communautaire a été purement annulé à l'époque pour des raisons plus de compétences régionales et pas fédérales.
Lucas Chichette.
Pas mal hein, pour un petit machin. Je vais poursuivre alors et je redonnerai la parole après à Yves sur le futur. Parce que c'est vrai que le débat d'aujourd'hui est assez paradoxal et enfin particulier. C'est qu'on va évoquer des enjeux locaux, communaux, fatalement, alors qu'il se prépare un tsunami colossal qui nous vient du fédéral. Donc ça va être difficile de ne pas en parler, évidemment. Donc ça, je vais laisser Yves le faire juste après. Alors j'ai fait une petite liste. de petites choses que je voulais évoquer avec vous. Et qui...
Il y a trois jours de débat.
Il y a trois jours de débat. Non, c'est dramatique parce que rien qu'en faisant la liste, je me suis dit que si je faisais 30 secondes sur chaque point, on dépasserait les 15-20 minutes que j'avais pour introduire un peu ici. Mais donc voilà, je vais quand même essayer. Je prends toute la réflexion et je n'ai pas parlé de sans-papiers. C'est bizarre, on est à Bruxelles. Je n'étais pas dans les 20, vous imaginez, la 20e commune de Bruxelles. Logement, voilà, pour vous dire à quel point il y a beaucoup. Alors, le dernier point que je voulais aborder, et finalement, je vais commencer par ça. Je me dis comme ça, on va mettre un peu d'ambiance. C'est une des grandes problématiques, évidemment, qu'on connaît. Ouais, petite parenthèse, tu me présentes comme expert, je suis plus engagé qu'expert, et quand je regarde les personnes présentes, il y a bien plus d'experts là qu'ici. Mais sur le non-recours au droit, qui est quand même un problème colossal, quoi. C'est difficile de ne pas évoquer la question des CPS sans évoquer la question des recours au droit, qui en proportion atteint des sommes phénoménales. Alors, il y a plusieurs explications à ça, évidemment. Il y a les questions techniques, qui sont liés à des critères de la loi qui existent. Yves l'évoquait avec moi en préparation. La question du recours aux débiteurs alimentaires, c'est une catastrophe, évidemment, qu'il y a un manque de recours au droit par ce biais-là, par cette crainte-là. Il y a le problème de l'information, évidemment. Et puis, il y a un autre truc. Au-delà du problème de l'information, c'est la honte, quoi. Il y a un truc dont j'entends assez peu parler, c'est le fait que, de manière générale, les gens n'ont pas envie d'aller au CPS, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a un vrai problème à y aller. Et je vous dis ça, c'est les échos de salle d'attente de CPS. Les gens n'aiment pas ça. Et alors, le hasard veut que... C'est pour ça que je vais commencer par ça. J'ai reçu ça ce matin dans ma boîte aux lettres. Bon, je suis désolé, j'ai pas reçu le PS. J'ai reçu Écolo, le MR et les engagés. J'avais pas regardé ceux d'avant, je suis navré. Bon, dans les trois prospectus ici, j'habite à XL, sur les élections communales, dans aucun des trois, Écolo, engagé, MR, il n'y a le mot CPS. Aucun. Alors, il y a une raison à ça, hein. Il y a une raison, et d'ailleurs c'est traité par l'article de Pierre qui est paru dans la revue politique tout récemment. C'est vrai que la manière dont est vécue la question des CPS, c'est compliqué à porter pour les partis progressistes, parce que c'est mal vu, parce que c'est, voilà, globalement on est quand même dans de l'assistance, dans de la dépense.
Le Pierre qui est interpellé, c'est Pierre Verberen, qui est secrétaire du CPS de Bruxelles, ce qui n'est pas rien dans cette question. Directeur, ok, directeur. C'est une grosse légume du CPS de Bruxelles, on va dire ça.
Il est directeur du service social.
Pierre notait dans son article, à juste titre, qu'en Flandre, il ne se pose plus trop la question de la difficulté à parler du CPS, parce que le CPS a tellement évolué, y compris dans l'espace public, dans le débat public. Finalement, c'est bon, on n'est plus dans la logique clientéliste, enfin, en tout cas dans l'accusation de clientélisme politique, en gros, de CPS locaux qui sont asservis à des enjeux politiques, électoralistes, où on va aider le copain et on va faire dans l'assistanat. Et vous avez vu la campagne que mène Boucher pour l'instant et qui est absolument effroyable et qui va jusqu'à dire que finalement, en ciblant assez bien le PS d'ailleurs, que s'il y a des pauvres, c'est quand même bien de leur faute, ils en sont bien contents parce que ça fait des électeurs. Bon, mais fatalement, c'est difficile de promouvoir du CPS dans les tracts électoraux quand on baigne dans cette atmosphère-là. Donc c'est vrai que ça, c'est une problématique assez francophone. Mais il n'empêche que le résultat est là. Pas un mot, quoi. Pas un mot sur les CPS dans les tracts. Et après, on va s'étonner que les gens aient peur d'aller au CPS. Le CPS n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'était juste pour introduire. C'est effrayant. Alors, je vais reprendre ma petite liste.
Pour rappeler la technique, on n'élit pas les conseillers CPS. Ils ne doivent même pas être candidats. Hein, c'est une élection à deux étages. Quand le conseil communal est installé, il doit installer le conseil du CPS, je pense, dans les trois semaines. Hein, et il peut prendre qui il veut. Je pense, Myriam, je te regarde, ils doivent habiter la commune quand même.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Mais à part ça, ça peut être n'importe qui, et ils ne doivent pas avoir été candidats. Donc ce n'est pas des gens forcément qui sont médiatiques, ce qui n'a pas que des inconvénients. Ça, on y viendra plus tard.
Oui, parce que ça veut dire que si les partis choisissent bien, ils peuvent choisir des gens compétents. Mais à condition que ça ne soit pas, comme ça a été reproché longtemps, un lot de consolation pour ceux qui n'ont pas obtenu un autre mandat qu'ils espéraient au niveau communal. Ça, c'est vraiment un des vrais problèmes.
Il faut rappeler que, selon la loi, on peut cumuler. Donc, on peut en même temps être au conseil...
Un tiers.
OK. D'accord. Intéressant.
Attendez, je vais poursuivre parce qu'on est qu'au début de la liste. Alors, le premier point, là, c'est juste pour le citer, et on ne va pas le traiter ici, je pense, parce que c'est une question fédérale, mais c'est difficile de parler de CPS, hein, parler de ça. Le niveau est évidemment trop faible des allocations. La question du statut cohabitant, bon, c'est la base de la base, évidemment. C'est le premier point, mais voilà, c'est au fédéral. Le deuxième point, c'est la question des travailleurs sociaux en CPS. Il y a plusieurs problématiques là-dessus. Il y en a tellement, là aussi, on pourrait faire 20 minutes. Alors d'abord, il en manque. Alors ici, on est sur Bruxelles, mais c'est particulier à Bruxelles. Là, il faut réaliser à quel point, je ne sais pas si les Bruxellois le savent, j'espère que oui, La charge de travail qui est subie par le travailleur social en CPS est incroyablement plus grande que le travailleur social dans les autres régions.
Et les barèmes sont plus bas. Ils ont été revalorisés enfin. Les premiers concurrents des CPS bruxellois, ce sont les CPS wallons. On forme les gens très bien dans les CPS bruxellois. Et après, ça devient des stars dans les CPS wallons.
Tout à fait. Et donc là, casquette syndicale, il y a un vrai enjeu sur les, enfin, sur les conditions de travail. Bon, un peu bateau, mais il n'empêche que vous avez donc des travailleurs qui, logiquement à compétences égales, font le même boulot, sont payés moins et travaillent plus. Donc là, il y a quand même un souci pour ce qui relève, a priori, d'une compétence fédérale. C'est assez ahurissant. Autre élément quand même que je voulais ajouter là-dessus, c'est que l'assistante sociale, la formation d'assistante sociale, c'est quand même un truc assez particulier. Et finalement, il ne reste, puisqu'on a détricoté un peu tous les services sociaux qui pouvaient exister ou pouvaient se loger des assistants sociaux avec des convictions politiques, une appréhension globale du parcours social de la personne, etc. Finalement, ils se retrouvent encore en CPS. Et c'est à peu près tout. Je ne vais pas dire que c'est une fonction, un statut en voie de disparition, mais quand même, il est attaqué. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a les collectifs de travailleurs sociaux qui s'organisent, là, de nouveau. Et il y a là un enjeu à la défense du statut du travailleur social. Et évidemment, par le biais du CPS, il y a là des leviers, mais pas que, évidemment. C'est aussi la qualité de la formation dans les écoles où tu es, qui sont aussi pointés du doigt,
et
évidemment.
Et beaucoup d'étudiantes qui se disent, en commençant, et parfois encore plus après leur stage, tout sauf le CPS, exactement. Je veux travailler partout, sauf là.
Alors, quelques autres éléments. L'usage maximal des compétences. Alors, ce qui est dingue, c'est que, je ne suis pas un expert technique, mais quand on lit un peu la loi sur les CPS, la possibilité est dingue. C'est fou ce qu'un CPS peut faire. En gros, c'est le lieu qui a le plus de compétences. Vous pouvez tout faire au nom de...
L'aide la plus adéquate.
C'est l'aide adéquate. Donc, je vais donner quelques exemples. Mais en matière de santé, par exemple, on a vu, on connaît, et certains s'en plaignent, qu'en matière d'hôpitaux, par exemple, on a pu créer, avec des associations, avec d'autres CPS, pas juste le CPS de Bruxelles-Ville, un outil quand même assez fameux, hein, en matière hospitalière. On n'a pas vu, et ça pourrait se faire, des CPS qui se disent et créent, alors peut-être pas en propre, par l'externe, des maisons médicales, par exemple. On sait que dans l'accessibilité aux soins de santé, au niveau local, les maisons médicales sont le meilleur moyen possible. Quand je parle des maisons médicales, c'est le système au forfait, gratuité, etc. Bon, c'est le meilleur truc possible, il n'y a pas mieux. C'est statistique, c'est prouvé, c'est étudié, etc. Et il en manque, il en faut plus. Les CPS sont des leviers de malades pour pouvoir les faire. À ma connaissance, il n'y a pas un CPS qui est en soi organisateur d'une maison médicale. Elle pourrait le faire, rien ne l'empêche. En matière alimentaire, alors là, j'ai rêvé, évidemment. Mais imaginez, au moment de la franchisation des Deleuze. je rêve, hein. Je suis là pour ça. Imaginez 19 CPS bruxellois qui seraient dit « On a plein de petits supermarchés locaux qu'on pourrait transformer en locaux pour vente ou pour attribution alimentaire au niveau local, et pas que pour les publics, hein, pour avoir des tarifs différenciés, etc. Alors, il y a des choses qui existent, il y a des épiceries sociales, il y a plein de petits trucs qui existent partout.
Mais et à l'occasion du Covid, il y a eu des moyens supplémentaires,
tout
et
à
il
fait.
Y a eu quelques bonnes initiatives qui ont été prises. Quand
tout
même.
À fait.
Y compris qui étaient accessibles aux sans-papiers, l'aide alimentaire, alors que normalement, ils n'ont droit qu'à l'aide médicale urgente. Et c'était une chouette piste qui a été inaugurée, testée à cette occasion-là. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas... Pendant la période du Covid, il y a eu plein de trucs qu'on a fait dont on s'est rendu compte que ça nous a permis de mieux sortir de la crise, et on ne les a pas poursuivis. On a gelé la dégressivité des allocations de chômage, on a arrêté d'exclure les allocataires d'insertion, on a fait plein de choses comme ça, on a élargi toute une série d'aides, on a élargi le tarif social au BIM, on a fait plein de mesures qui ont prouvé leur efficacité sociale, et puis quand les différentes crises ont soi-disant été finies, hein, parce qu'au niveau des CPS, ils sont toujours dans ces crises-là, ils sont toujours à les gérer. Hein. Elles ne sont pas finies du tout pour les CPS. Mais boum, on a dit, oh ben non, c'est terminé, la crise est terminée, on arrête ces mesures, qui pourtant avaient montré leur efficacité.
Et alors j'avais d'autres exemples encore, en maison de repos, globalement tout ça est fait au niveau uniquement local, c'est pas encore vraiment coordonné, il n'y a pas d'échange entre CPS et communes, alors qu'on pourrait imaginer de la même manière que pour les hôpitaux, une grosse structure qui aurait pu servir sur tout Bruxelles par exemple. Alors, je vais faire un petit point très rapide. La meilleure manière d'aider les CPS, évidemment, c'est de défendre la sécu et l'emploi de qualité. Donc, si des parties, là, je ne vais pas m'adresser aux personnes qui sont ici présentes, ici on est tous de bonnes compositions, mais il y a un souci de cohérence quand même globalement au niveau des parties. On ne peut pas à la fois être au niveau local défenseur du CPS et à la fois au niveau fédéral fermer les yeux sur ce qu'on vote ou ce sur quoi on s'oppose timidement. Et ça, c'est quand même la base, quoi. Autre élément, là, un peu plus problématique, particulièrement pour Bruxelles et particulièrement pour certaines communes, c'est la question de la jeunesse et la question des étudiants. Un vrai problème, et particulièrement à Bruxelles, où on sait que des étudiants qui viennent en plus d'en dehors de Bruxelles. Donc,
pourquoi c'est plus certaines communes que d'autres ?
La localisation, c'est sûr que Ixelles, Saint-Gilles...
Oui, mais attention, parce que pour les étudiants en plein exercice, il y a une règle de compétence qui est... Oui, donc... Mais n'empêche que les CPS, les gens se trouvent quand même sur le territoire, mais bon...
Donc là, il y a un truc. Et alors, il y a un autre aspect qui est plus technique, c'est la question des allocations familiales. Et ça, Yves connaît ça mieux que moi. Mais ça crée des misères dans les familles, c'est un truc de fou, quoi. Donc le fait qu'il y ait les allocations familiales perçues par le parent au moment où l'enfant devient adulte, qui lui reste vivre là, et comment est-ce qu'on partage l'allocation, c'est un bordel sans nom. Ça crée des problèmes avec des situations vraiment dramatiques et de conflits au sein des familles. Donc là, en plus, il y a des moyens qui existent de partager ça. Il y a des clés qui existent, mais qui ne sont pas pratiquées partout. Et c'est bien dommage de partager, finalement, entre enfants et parents, enfants devenus adultes et parents, l'avantage des allocations familiales. Bon. Et puis, il y a un petit truc un peu particulier là, qui me touche un peu. C'est la question des jeunes devenus adultes, sans parents, donc orphelins, qui touchent leurs allocations familiales orphelins, et puis qui doivent les rendre. Parce qu'on est dans les logiques de droit en dernier recours, finalement. Donc, le CPS, vous l'octroyez après avoir reçu toutes vos aides. C'est quand même incroyable de se dire qu'un gamin de 19 ans, qui reste des allocations familiales majorées, doit les rembourser. Le droit de l'enfant, là-dessus...
Mais elles sont déduites de son revenu intégration.
Elles sont déduites.
Il faut dire ça pour les auditeurs qui ne vous voient pas. C'est Yves Martens qui fait des compléments.
Ah oui, il y a une... Donc là, petit point particulier, et il y a sans doute des manières de corriger ça au niveau local. Alors, il y a deux gros chapitres là qui viennent. Allez, le premier gros chapitre, parce que ça, c'est quand même un gros truc. La professionnalisation des conseillers. Ce que je dis toujours, c'est que je suis sûr que le CPS de Jette a été ravi d'avoir un conseiller comme Yves pendant de nombreuses années. Sûrement, j'en doute pas, en termes de qualité, d'investissement, etc. Mais alors, deux, trois trucs quand même. Un, il a touché peanuts pour ça. Par rapport au temps passé à ça, c'est juste effrayant. Deux, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une qualité de travail et d'investissement dans le cadre, justement, de missions qui sont exercées avec des petits jetons. Enfin, voilà.
Qu'est-ce que tu dirais, Luca, en équivalent temps plein ? Qu'est-ce que tu dirais ? Un conseiller CPS qui fait bien son travail,
De mon point de vue, il devrait être à temps plein et ça devrait être mutualisé au niveau régional. Mais ça, c'est un autre débat qui nous emmènerait bien loin. Mais je crois difficile au niveau local, avec une journée maximum dédiée par semaine pour les conseils, de pouvoir être professionnels et compétents sur les matières.
Donc l'idée, et ça c'est valable aussi pour les conseillers communaux, les conseillers CPS sont considérés comme des gens qui ont un travail par ailleurs et qui font ça après leurs heures, parce que les réunions ont lieu après leurs heures. Sauf que les dossiers dont on va discuter, c'est en dehors qu'ils doivent les avoir lus. Yves Martens.
Oui, une des difficultés justement, c'est qu'en CPS, il y a pas mal de réunions qui sont en journée aussi, donc ça pose aussi des questions de disponibilité des conseillers. Franchement, un conseiller dans un CPS bruxellois qui s'investit et qui est dans les différents comités, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est minimum un cinquième temps. Hein, c'est minimum un cinquième temps. Et c'est facilement plus. Mais, et donc, rien qu'en termes de présence dans les réunions. Hein, après, selon les conseillers, ils vont plus ou moins travailler sur leur dossier par ailleurs. Alors, évidemment, il y a des gens qui, quand on travaille déjà dans le domaine, on est un peu avantagé, puisqu'on ne débarque pas, quoi. C'est pas comme un fleuriste ou un banquier qui viendrait et qui connaîtrait rien à ça. Ça pose aussi cette question de... On parle beaucoup de... Est-ce que c'est bon de garder... Ça, c'est une question qui serait intéressante, je suppose, pour le débat. Est-ce que c'est intéressant de garder la décision sur les dossiers sociaux par des élus politiques ? À certains égards, on peut se dire que ça a une pertinence parce qu'ils sont responsables des politiques sociales qui sont menées. Mais ces politiques sociales ne sont malheureusement pas fort débattues, ni dans les débats préélectoraux, ni au Conseil communal, et ni fatalement au CPS, en tout cas pas publiquement. Par ailleurs, on se dit que quand on a des travailleurs sociaux qui font tout un travail avec une enquête sociale et puis un rapport social... Et puis que des responsables, des conseillers politiques, des mandataires politiques peuvent, d'un revers de la main, balayer tout le travail qui a été fait par un travailleur social, il faut parfois se demander si ça ne pose pas des questions aussi et que ça ne participe pas parfois aussi à la démotivation des travailleurs sociaux. Et donc, il y a certains travailleurs sociaux et certaines associations qui plaident pour la suppression complète des politiques dans la décision. Moi, je vous avoue que je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de faire en sorte qu'il y ait justement davantage de formation, davantage d'encadrement aussi.
Alors, est-ce qu'on peut un peu préciser comment ça se passe pratiquement ? Bon, moi, je ne suis pas au CPS, donc j'essaie de reconstituer toute la démarche. Il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte du CPS en disant je n'en sors pas. On lui colle un assistant social qui examine. Non, mais il y a un assistant social qui étudie la question, qui fait un rapport.
Donc, la loi détermine que c'est seulement quelqu'un qui est porteur du titre d'assistante sociale qui peut faire l'enquête sociale et le rapport.
Et ce rapport est transmis.
Et ce rapport, alors ce rapport, selon la taille du CPS, va être relu par des superviseurs, en chef, enfin, il y a des termes différents selon les CPS, qui va, le cas échéant, formuler des remarques, en discuter avec la S. Et puis, le rapport est présenté au comité spécial du service social.
Alors là, il faut expliquer ce que c'est. Il y a le conseil qui est, du CPS, voilà. Et puis c'est quoi ce machin de...
Le comité spécial du service social est donc un comité qui est une émanation du conseil de l'action sociale. Il peut y avoir plusieurs comités spéciaux, mais il ne peut pas y avoir aucun comité spécial tant qu'il n'y a pas un comité spécial du service social.
C'est compliqué.
Oui. Et avant, il y avait des CPS comme Gansoren, par exemple, qui n'avaient pas de comité spécial du service social. Et heureusement, ça c'est un des bienfaits de la régionalisation, à Bruxelles, l'ordonnance a rendu obligatoire la création d'un comité spécial du service social. Donc, je pense que c'est très bien qu'il y ait un comité spécial du service social. Et dans ce comité spécial du service social, vous allez avoir une discussion. Généralement, les décisions sont prises.
Et là-dedans, c'est des conseillers.
Alors, vous avez, oui, vous avez donc les conseillers qui sont membres de ce comité. Vous avez quelqu'un qui représente l'administration, le service social, et vous pouvez y inviter d'autres personnes en fonction des nécessités. Et ça, c'est un des trucs sur lesquels j'insiste dans la formation des AS, maintenant que j'ai l'occasion de les former, de rappeler aux AS qu'ils ont le droit d'être entendus eux-mêmes par le comité spécial du service social. Et qu'ils sont là aussi pour défendre leur dossier. Donc, ils ont aussi une responsabilité de défendre leur dossier et pas juste dire « j'ai fait mon rapport et ces connards de conseillers n'en ont rien fait ». Donc ça, ça ne va pas non plus. Donc parce qu'ils ont vraiment leur rôle à jouer également là-dedans. Mais il ne faut pas se cacher. Et moi, j'ai accompagné pas mal de gens dans des auditions. Dans certains CPS, et je ne parle pas que de Bruxelles, hein, j'étais en Wallonie aussi, parfois ça peut être pénible, quoi. Hein, on peut avoir, ouais, mais parce que évidemment, il peut y avoir une certaine proximité, une certaine connaissance des gens qui peut poser problème. Normalement, et un travailleur social et un conseiller, un mandataire CPS doit pouvoir s'extraire de ces considérations-là, mais malheureusement, ça joue quand même parfois. Et donc, on peut avoir un rapport social qui est balayé par une décision du comité. Et en plus, ce qui est quand même dur pour l'AS aussi, c'est que même si l'AS va dire c'est le comité a décidé que, mais in fine, c'est quand même l'AS qui doit avoir le contact avec le demandeur. Et c'est pas facile non plus pour les AS de porter ces décisions-là.
Donc la question que tu avais soulevée, après on va passer à la fin de la liste, c'est est-ce qu'il est justifié que dans la décision finale, que cette décision soit prise aussi par des gens qui n'ont aucune formation particulière.
Bah, je pense qu'il y a du pour et du contre, mais je pense que ce serait intéressant d'entendre les mandataires, les représentants politiques sur cette question.
Vous avez pris note ?
La professionnalisation des conseillers. Donc derrière ça se cache beaucoup de débats compliqués.
Lucas Chichac.
Autre élément assez important, Yves l'a abordé évidemment, c'est le lien entre l'emploi et l'octroi des aides. Donc c'est vieux comme le monde, c'est pas récent, même si on fait comme si c'était récent. Mais quand même, il y a eu des évolutions au fur et à mesure des dernières années qui font que la distinction entre ce qui relève des politiques de l'emploi et des opérateurs emploi et ce qui relève des CPS, elle est devenue compliquée. La différence entre, on est sur Bruxelles, entre Actiris, un opérateur emploi d'un CPS, une mission locale, un opérateur ALE, Qu'est-ce qui justifie cette espèce de melting pot avec plein de personnes qui finalement font plus ou moins la même chose et globalement avec les mêmes personnes, hein. Parce que la distinction des publics, moi, ça me fait quand même grandement rigoler. On a des publics spécifiques. Bon, publics spécifiques, en gros, à Bruxelles, 2/3 des chômeurs sont sans CESS ou études reconnues. Il y a des accidents de la vie qui font que des personnes se retrouvent en CPS et là, oui. Mais sinon, globalement, on est avec un public précaire, mal formé, difficultés de langue, etc., etc. Bon, voilà tout. C'est le même public. Donc, justifier des distinctions de compétences entre différents niveaux de pouvoir, et là on est dans le même niveau de pouvoir, on est au sein de Bruxelles ici, devient quand même de plus en plus difficile à comprendre, et pour les gens ça devient quand même vachement compliqué. D'autant plus que même d'un point de vue statistique, je veux dire, les demandeurs d'emploi maintenant sont aussi ceux qui sont inscrits par le biais, enfin qui sont bénéficiaires du CPS. Donc on n'est plus dans la logique ancienne où vous étiez chômeur, vous étiez CPS, où c'était assez séparé. Donc c'est le même public qui se retrouve dans les deux. Et statistiquement, le nombre de demandeurs d'emploi qui sont au CPS est en croissance. C'est un truc de fou, quoi. Donc dans certaines communes, vous atteignez des 20-30%. Et en fonction des catégories d'âge, moi j'ai des souvenirs de Saint-Gilles, c'était moitié-moitié. Moitié des jeunes de moins de, je sais plus, 25-30 ans dépendaient du CPS. Bon, bah voilà, à partir de là, faut quand même en tirer des conclusions sur le rôle qu'on donne à chacun et d'arrêter un peu des tricotages, parce que derrière ça, vous avez des gens fatalement qui doivent...
À cet égard, c'est intéressant de dire que cette tendance est renforcée...
Inpartent.
Cette tendance est renforcée avec la réforme des allocations sur la base des études, donc les allocations d'insertion, où on voit que c'est pas le seul élément explicatif, mais ça a participé à la grosse augmentation du nombre de jeunes dans les CPS, et ça pose question, on y viendra j'imagine, sur le projet qu'on nous annonce de limiter à 2 ans les allocations de chômage, cette fois sur la base du travail, parce que ce serait encore plus important que le phénomène qu'on a aperçu avec la limitation dans le temps des allocations d'insertion, et dont le résultat est une surcharge pour les CPS, et pas un effet magique sur une meilleure insertion à l'emploi du public.
On aborde déjà le sujet ou bien la liste est pas
encore finie ? Encore 3-4 petits trucs, rapides.
Retenez
oui, l'idée, c'est que ceux qui doivent intervenir, donc nos candidats, puissent faire leur choix dans la liste. Peut-être encore un truc, là ça relève plus du débat philosophique, mais j'ai quand même envie de le poser. Est-ce qu'à un moment, on peut pas, même si c'est dur, je suis même comme syndicaliste, c'est dur, mais accepter l'idée que pour certains, l'emploi, c'est pas très grave. C'est pas un objectif en soi. Nous, récemment, du côté de la CC Wallonne, on a fait un débat sur les ALE. Et alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait pareil. Bah, si, quand même. C'est un peu le même genre de public. Ils font une petite activité pour un certain nombre d'heures, avec un peu de complément de revenus, dans des logiques, a priori, d'insertion et de chemin vers l'emploi. On s'est dit, du côté syndical, on a quand même assumé ça, de dire non, les personnes qui sont dans des cadres ALE, c'est pas dans des objectifs d'insertion, pardon. C'est de la cohésion sociale, c'est du petit bonus de rémunération, et c'est très bien comme ça, et qu'on leur foute la paix. Alors, ça pose aussi la question, là, qui est plus macro, d'un problème, et là on est sur des politiques économiques, sociales, etc., de développement d'activités qui répondent aux compétences des gens. Voilà, on est quand même dans une logique où les gens doivent s'adapter. Bon, mais pour 15-20% de la population, ce sera jamais possible. C'est historique, ça a toujours été comme ça, ce sera encore comme ça dans 50 ans. Excusez-moi d'être un peu défaitiste, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, moi, c'est un peu philosophique, c'est pas simple, j'ai pas de réponse toute faite, mais...
Il faut rappeler quand même qu'il y a des raisons d'équité qui permettent de dispenser, de santé ou d'équité, qui permettent de dispenser des dispositions à l'emploi, mais...
J'étais dans le philosophique, moi, là, Yves.
Je fais le lien avec le pragmatique. Parce que le problème, c'est que avec les différentes réformes qui ont été vers toujours plus de contractualisation, et notamment avec un incitant financier aussi pour les CPS...
Plus de contractualisation, c'est-à-dire que pour avoir l'allocation, il fallait qu'ils produisent quelque chose.
Ouais, le fameux PIS dont on parlait tout à l'heure, le projet individualisé d'intégration sociale, qui permet un remboursement majoré par le fédéral du revenu intégration. Et donc, évidemment, les CPS ont... Même des CPS qui se disaient « le PIS n'est pas un bon outil » ou « on veut en faire quelque chose d'une meilleure manière ».
Tout le monde suit.
Pour des raisons financières, vont évidemment, à un moment donné, être obligés de faire, en tout cas, une bonne partie de PIS. Et donc, on pourrait vraiment, et les CPS, heureusement, le font encore, mais on peut dispenser de dispositions à l'emploi des bénéficiaires pour une période déterminée parce qu'ils ont trop de difficultés et ils ne sont pas directement suffisamment proches de cet emploi ou même pas d'une formation. Donc là, le dispositif existe dans la loi organique, qui est une loi magnifique et qui est une loi vraiment sociale. Mais malheureusement, on n'incite pas les CPS à aller vers cette voie-là, voire on les pénalise par des mécanismes de financement. Tu voulais pas parler budget, justement ?
Ouais, c'était mon dernier point, du coup. Peut-être juste un truc, un élément d'inquiétude, les débats sur le service communautaire, les possibles réformes des ALE, le rôle du local et du CPS dans la mise à l'emploi des gens, service citoyen, ce genre de trucs, voilà. Tout ça est un melting pot un peu foireux, qui peut être inquiétant. Et là, je prends l'exemple sur ce qui se passe en Flandre, sur ce qui s'est passé en Wallonie, là, récemment. C'est dans l'accord de gouvernement d'essayer de travailler le service communautaire, de modifier. On ne sait pas trop de quoi il parle, mais voilà.
J'avais compris que le service communautaire, c'était gagné, qu'on n'en parlait plus.
Ben justement.
La Flandre l'avait remis en chômage. Ça a été un fiasco total. En fait, ils n'ont pas réussi à faire marcher le truc. Et dans le nouvel accord de gouvernement flamand, ils abandonnent le service communautaire et ils le remplacent par ce qu'ils appellent un samenleving job, un job de vivre ensemble, et qui n'est pas tellement éloigné, à part que l'indemnité ridicule de 1,30€ par heure qu'ils proposaient est à maintenant proposée à 4,60 ou 4,70, je ne sais plus exactement, ce qui nous rapprocherait plutôt du dispositif ALE, puisqu'on est quasiment là dans les mêmes montants que le dispositif ALE.
Donc ce qu'on entend par service communautaire, c'est qu'en échange job, des mini-jobs...
En échange pour mériter son allocation, voilà. Et avec un petit complément horaire. Donc comme je disais, il avait été mis pour les chômeurs à 1,30€ par heure. En Flandre, ça a été un fiasco. Les communes ne se sont pas du tout saisies du dispositif. Et maintenant, dans le nouvel accord de gouvernement flamand, ils retentent un essai. Et comme le disait Luca, dans l'accord de gouvernement wallon, on annonçait aussi, et pour les chômeurs et pour les bénéficiaires de CPS, d'aller vers ce type de mesures.
Alors encore deux micro-bazars. Et le budget, on pourra en parler par des heures. Alors, le premier micro-bazar, c'est la défense juridique, ou je vais l'appeler autrement, le délégué syndical, puisque je suis syndicaliste. Il n'y a pas vraiment de délégués syndicaux pour les candidats usagers de CPS. Et c'est un problème. Évidemment que c'est un problème. De manière générale, il y a une absence et un déficit de soutien juridique pour les usagers ou les candidats usagers qui est phénoménal. J'ai pas de réponse à cette question, donc là, j'aimerais bien entendre les candidats là-dessus, mais... Il existe des services de médiation. Toi, c'est un truc un peu à la mode. Hein, je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
On pourrait mettre un juriste dans les comités spéciaux du service social aussi.
Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne devrait pas exister d'office une boîte aux lettres services juridiques internes de façon à ce que la personne puisse s'assurer.
Donc l'idée c'est que s'il y a une décision du CPS
ou même avant,
qui ne convient pas à un demandeur, il n'y a pas de recours, c'est ça?
Bah, ici, il y a toujours. Et quand il y en a, ils gagnent toujours, en général. Mais qui fait le recours? Il faut le savoir. Mais c'est vrai que, de ce que je sais, le peu de gens qui font des recours, ils gagnent. Enfin bon. Donc, le problème, c'est qu'il faut le savoir, il faut le faire, il faut toquer aux bonnes portes. C'est pas simple. Mais ça ne se pratique pas. Je crois que le nombre de recours, il doit être ridicule par rapport au nombre de décisions.
En fait, on voit déjà, rien que le fait de demander une audition après une audition négative, on a quand même beaucoup de décisions qui sont revues. Donc, à la lumière des éléments apporté par l'audition, eh bien, un comité qui avait refusé une aide va souvent modifier sa décision.
Voilà, Lucas, je sais que ta liste est toujours des petits trucs.
Zélé d'octroi des aides, Anderlecht, Scarbeck, s'il vous plaît. Transparence des décisions, jurisprudence, problématique. Bon, alors, et les budgets. Voilà, juste quand même, les budgets au niveau communal, on est dans quoi? Avec l'enseignement, la police, évidemment. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais on est dans les 3-4 énormes budgets communaux, et les hôpitaux, oui, quand il y a. Voilà, donc c'est quand même fou de se dire que ce qui coûte autant au niveau communal, pour de mauvaises raisons, parce que le fédéral n'intervient pas assez, est si peu présent dans les débats. C'est juste ahurissant.
Il faut quand même préciser, donc dans l'argent qui sert à financer tout ça, qu'est-ce qui vient des communes, qu'est-ce qui vient du fédéral, c'est quoi la proportion?
Donc en fait, pour le revenu d'intégration, pour la plupart des CPS bruxellois, ils sont remboursés à 70% par le fédéral, plus 10% s'ils ont le supplément PIS. Il reste encore quelques CPS à Bruxelles qui sont 65% de remboursement, et Woluwe-Saint-Pierre qui est à 55%. Je pense que c'est le seul qui est encore à 55%. Donc tous les autres sont dans la tranche des moyens et des gros. Et si on supprime les allocations de chômage après 2 ans, même le CPS de Woluwe-Saint-Pierre deviendra un CPS moyen. tous les autres CPS, même Gansouren deviendra un gros CPS. Je ne sais pas si vous imaginez...
Attends, j'ai une toute petite question avant d'aborder cette question-là, qui est vraiment la grosse question politique de l'heure. Mais cette ventilation en, disons, 80-20, c'est correct ?
Oui, pardon, j'aurais dû expliquer. Donc, il y a un peu moins de 30 CPS en Belgique qui ont un taux de remboursement à 70%. Ce sont ceux qui, deux ans auparavant, avaient en moyenne au moins 1000 bénéficiaires du revenu d'intégration. Ceux qui avaient entre 500 et 1000 bénéficiaires de revenus d'intégration en moyenne toujours deux ans auparavant, ce qu'on appelle la pénultième année, ceux-là ont un remboursement à 65%. Et là, il y en a 24-25 actuellement. Et puis donc, il y en a plus de 500 qui sont avec un remboursement de 55% seulement parce qu'ils ont moins de 500 bénéficiaires en moyenne les deux ans précédents.
Mais c'est correct, cette ventilation ? C'est juste ?
C'est tout à fait insuffisant. La revendication, on ne comprend déjà pas pourquoi les communes pauvres, les communes où il y a le plus de pauvres et donc le moins de richesses, sont ceux qui doivent payer le plus pour les pauvres. C'est tout le contraire de la solidarité. Donc, la prise en compte à 100%, qu'on organise l'aide sociale au niveau communal parce que c'est un acteur de proximité, c'est très bien. Mais le financement, c'est stupide. Ça serait tout à fait logique de rembourser à 100% par le fédéral le revenu d'intégration.
Voilà une grosse question. Alors maintenant, à quoi les CPS doivent s'attendre si le nouveau gouvernement Arizona met en pratique ce qu'il a annoncé qu'il ferait ? C'est-à-dire de renvoyer au CPS tous les chômeurs en fin de droit après deux ans.
Alors, selon les indicateurs qu'on prend, il y aurait environ 140 000 personnes concernées pour toute la Belgique. Sur ces 140 000 personnes... deux tiers sont des non-cohabitants, donc ceux-là, a priori, auraient droit au CPS. C'est l'exacte proportion inverse de 2015, quand il y avait la limitation à 3 ans des allocations d'insertion, où là, deux tiers étaient des cohabitants, donc beaucoup n'ont pas eu droit au CPS. Mais ici, ce serait entre 90 000 et 100 000 personnes de plus en Belgique qui seraient à charge des CPS. Et on aurait, pour la première fois de l'histoire, plus de personnes au CPS que de personnes au chômage, qui serait un renversement complet de paradigme et le contraire total de la logique de la sécurité sociale et du côté résiduaire de l'aide sociale.
Et donc la grosse question, c'est comment le CPS, quels moyens on va donner au CPS pour gérer tout ça ? Donc combien d'AS il va falloir engager en plus, avec quel argent ? Dans quels locaux on va les mettre ?
Ouais, tout ça c'est des questions techniques. Le premier truc, c'est que les mandataires politiques locaux doivent faire remonter ces choses à l'intérieur de leur parti pour dire c'est une mesure qui est une mesure complètement folle. Les CPS sont déjà au bord de l'asphyxie. Ils ont déjà un manque de moyens. Ils ont déjà du mal à recruter. Ils sont déjà juste au niveau des locaux. Donc c'est juste, il faut dire non purement et simplement à cette mesure qui est une folie.
Comment ils s'opposent à ça ?
Voilà, là-dessus, nous arrêtons cette partie-ci. Yves Martens, c'est Lucas Chichia, n'allez pas trop loin. Vous allez prendre les places qui vont se libérer tout de suite. Je vous présente Mariam, voilà, pour les gens qui ne la connaissent pas. Bon, elle va vous présenter les intervenants de ce soir. Je dois vous dire qu'on va aussi essayer d'avoir quelqu'un désengagé, hein, pour ne pas laisser à Lazare Mboulou le soin d'être le seul représentant d'un parti de la nouvelle majorité fédérale. Ça n'a rien donné. Donc, j'ai envoyé tous les courriers qu'il fallait en insistant auprès du président des engagés bruxellois. Pas de réponse, tant pis. On fera ce qu'on pourra avec les quatre qui ont bien voulu accepter notre invitation.
Merci Henri. Je ne sais pas vous, mais moi... On va commencer à parler de la grève des trains, je pense. On ne va pas y arriver. C'était extrêmement dense. Pour les novices, c'est très difficile de s'accrocher. D'ailleurs, j'en profite pendant que les autres invités s'installent pour demander peut-être un peu plus de calme à la salle, puisque il y a des turbulences. Alors j'entends qu'on veut interagir et c'est très bien, mais on passera la parole à la salle plus tard dans un micro approprié pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse faire ça dans le calme et la sérénité d'un débat politique, puisqu'on a l'habitude que ça se passe dans le calme et la sérénité. Merci Yves Martens, merci Luc Chicha pour... d'avoir planté le décor. Alors moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Parfois, vous m'avez perdu. C'est extrêmement dense, extrêmement compliqué. Et donc ce que je vais demander aussi à nos invités politiques, ou en tout cas représentants politiques, c'est d'abord de réagir à chaud à tout ce que vous avez entendu. J'ai pris note de quelques questions, et à mon avis, vous aussi. Et puis on passera à la suite du débat. Donc, Myriam Amrani, vous êtes présidente, vous, du CPS de Saint-Gilles. À côté de vous, Nicolas du Parti Socialiste, effectivement, oui, je dois préciser la couleur politique, merci. PS, Nicolas Longfils, président du CPS de Forêt Écolo. Oumar Diallo. Vous êtes assistant social au CPS à la ville de Bruxelles. Vous êtes PTB. Et enfin, Lazare Mboulou, vous êtes vice-président du CPS de Bolomé. Vous êtes MR. Merci à vous quatre. On va commencer avec vous. Myriam, peut-être première réaction à chaud en... Allez, 4 minutes, parce que je sais qu'on en prendra un peu plus.
Oui. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue pour permettre plus d'interactions. Donc là, évidemment, à chaud, le diagnostic qui est posé est plus que préoccupant. Il faut quand même reconnaître que la situation était déjà préoccupante avant le Covid, avant 2020, donc. Nous sommes entrés, en tout cas pour ma part, en fonction en mars 2019, puisqu'effectivement, le Conseil de l'Action sociale s'installe juste un peu après le Conseil communal. Et très vite, on a été rattrapés par le Covid, une crise sanitaire qui est venue plomber, en tout cas chahuter pas mal l'organisation interne. Et s'en est suivie une crise sanitaire, une crise de l'accueil des réfugiés. Donc on a, j'ai envie de dire, un mandat qui a été principalement de la gestion de crise. Alors moi, je tire mon chapeau à celles et ceux qui n'étaient pas travailleurs sociaux avant, parce que je ne sais pas comment on aurait pu piloter une institution telle que le CPS dans ce contexte sans être pour le moins un peu sensibilisé au travail social. Donc ça répond en partie à la question de la professionnalisation. Donc moi, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans le secteur associatif, en coordonnant des projets, que ce soit en emploi-formation, au niveau de la cohésion sociale, au niveau du logement, au niveau de la lutte, tout ce qui est prévention, lutte, violence faite aux femmes, lutte, violence intrafamiliale. Évidemment, je ne m'attendais pas à devoir gérer une crise sanitaire qui a eu un impact terrible à l'échelle mondiale. Bon, je l'ai géré à l'échelle locale, mais ça a été...
Avec encore des effets aujourd'hui, en fait.
Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une crise financière en 2008-2009, et les effets de cette crise financière se sont fait ressentir encore tout au long de la décennie qui a suivi. Je le vois d'un point de vue financier, quand j'analyse la santé financière de mon institution, je me rends bien compte qu'il y a des pics comme ça, donc 2009, 2010, 2011, il y a des pics, les graphiques explosent, et puis on commençait seulement à se remettre de la crise financière de 2008 pour revivre une autre crise, et d'autres crises au pluriel, crise sanitaire, crise énergétique, crise de l'accueil des réfugiés. Et donc, ça a à la fois une incidence évidemment financière, on pourra en reparler, mais c'est surtout sur cette question de la compétence résiduaire des CPS. Donc, durant ce contexte de crise, on n'a pas arrêté, on n'a jamais autant parlé des CPS. Hein, je pense. Aller au CPS. Donc, ce qui était plutôt un bon réflexe, parce qu'on peut être plutôt fier et heureux d'avoir au sein de notre pays une institution qui incarne le dernier filet de protection de notre système de sécurité sociale. C'est quand même un modèle unique. Et donc, quand on dit aller au CPS, tout le monde voit bien ce que c'est. Ceci dit, évidemment, le poids de la honte, il était là. On a eu effectivement de nouveaux publics qui sont arrivés, des travailleurs intermittents qui étaient juste sur le fil, qui travaillaient dans l'ORECA, dans le milieu du spectacle, qui travaillaient comme indépendants et qui venaient chercher un complément au CPS. Ceux-là, franchement, ont énormément souffert. On a vu de nouveaux publics, notamment un public étudiant, qui a explosé. Tout d'un coup, plus de possibilité de jobber, donc besoin de ressources, les familles pas en mesure de soutenir. Et donc, effectivement, on passait la porte du CPS. Et pour des étudiants, c'est très compliqué, parce que, et les étudiants et les artistes, par définition, ils ne se vivent pas comme étant des bénéficiaires. Ils se vivent avant tout comme étudiants ou artistes. Et donc, se voir regarder, appréhender comme un bénéficiaire de l'aide sociale, ça pose aussi des questions en termes de statut. Les gens ne se vivent pas comme étant... Oui, ils vivent des difficultés socio-économiques, mais ça renvoie aussi à tout un statut de la question de la pauvreté. Quand tu évoquais tout à l'heure l'historique, hein, sur le regard et la prise en charge des personnes en situation de pauvreté, les personnes ne se vivent pas comme telles. Et pour des étudiants et pour des artistes, en tout cas, moi, je le vis particulièrement à Saint-Gilles, c'est très compliqué parce que d'abord, ils ont une vie estudiantine, une vie professionnelle qui nécessite un engagement à 100%. Et leur demander de venir entre 8h30 et 16h à des bureaux pour avoir un entretien pour rendre compte de leur projet et de leur évolution, ça constitue une contrainte et une forme de violence au quotidien. Donc c'est compliqué pour eux, mais c'est aussi compliqué pour nos équipes, parce qu'en même temps, il n'est pas question de créer des régimes différenciés en fonction du statut du demandeur. Donc on est toujours avec ce souci de pouvoir aussi proposer un accompagnement qui soit le plus équitable possible. Et donc ces dernières années sont venues vraiment chahuter, chambouler l'approche de travail social qui avait été édictée, en tout cas au CPS de Saint-Gilles. On s'est aussi beaucoup interrogé, puis tout d'un coup on a eu une salve de subventions qui nous sont tombées un peu dessus, donc qui nous ont aidés aussi à traverser ces crises, mais sont venus aussi interroger les lignes de conduite que nous avions édictées, parce qu'on s'était dit, mais on savait que ces subsides allaient s'arrêter. On ne savait pas quand, mais on savait que ça allait s'arrêter à un moment donné. Et donc se posait aussi la question de la lisibilité de ces aides. Comment dire à des personnes qui ont bénéficié d'une aide loyer, d'une aide alimentaire, d'une aide qui était d'un PC pour pouvoir suivre, aller au cours, etc. Et leur dit tout d'un coup, ah ben non, mais ça c'est terminé maintenant. C'était pendant la crise Covid, c'était pendant la crise énergétique. Maintenant tout va mieux, l'économie, c'est l'embellie économique, tout va mieux et voilà, maintenant c'est terminé. Et c'est très compliqué pour les travailleurs sociaux, comme ça a été dit préalablement, parce que ce sont les travailleurs sociaux qui sont les premiers visages de l'institution et qui, dès le début, nous ont dit « attention, comment est-ce qu'on va faire après ?» Donc on a eu en tout cas ce souci à Saint-Gilles de réfléchir sur du long cours, mais on était à un moment donné assez limité aussi dans cette projection. Donc ces 5 dernières années ont été extrêmement pénibles et ont en tout cas interrogé l'approche de travail social, l'accueil et évidemment les lignes de conduite. Sur la question de la professionnalisation, moi je pense que l'idée ce n'est surtout pas d'opposer les mandataires aux travailleurs sociaux. Je crois plus en cette idée de collaboration, de co-construction. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire au CPS de Saint-Gilles, sans vouloir dire qu'on est super et qu'on est... Oui, on est super, ça se passe plutôt bien. Mais j'ai envie de dire que, très bien dans l'idée de collaboration, c'est-à-dire que de partage d'expertise, d'expérience et de point de vue. Et quand on est dans ce climat d'échange entre travailleurs sociaux et mandataires pour définir ensemble des lignes de conduite et une politique sociale... Eh bien, on est dans ce débat, déjà entre nous, pour ensuite assumer collectivement une politique sociale. Et honnêtement, dans les faits, au quotidien, ça diminue. Je ne dis pas que ça fait disparaître l'arbitraire, parce que l'arbitraire, il peut être dans le chef des mandataires, dans le cas d'une décision prise en comité. Mais l'arbitraire, le caractère discrétionnaire, il peut aussi, à certains moments, être dans le chef de travailleurs sociaux. Donc voilà, j'ai brossé un petit peu en 4 minutes, un peu plus peut-être.
4 minutes et un peu plus. J'avais prévu le coup de toute façon. Nicolas Longfils, le même exercice hein, finalement de réagir à ce qui a été dit, peut-être aussi déjà entamer un peu le portrait du travail de, sans trop déborder, comme ça vous avez l'occasion de réagir aussi après, pour le CPS de Forêt.
Mais donc, effectivement, je ne vais pas refaire l'historique que Myriam a fait, très bien d'ailleurs. Je vais rebondir sur deux choses. Tu as poser le mot violence, qui n'a pas été posé par Lucas et Yves, mais c'est toute la question des violences institutionnelles, et donc ce report de violence qui va depuis le fédéral jusqu'au final le bénéficiaire, j'y reviendrai, et alors la question effectivement de la professionnalisation, où j'approfondirai un tout petit peu, mais donc il faut effectivement se rendre compte que, et Yves l'a déposé, c'est que quand un CPS ne suit pas les règles imposées par le fédéral, il est sanctionné et il est lourdement sanctionné. On parle de centaines de milliers d'euros par an, ça peut aller jusqu'à au-delà du million. En tout cas, je parle chez moi à l'époque, donc à Forêt à l'époque où on était fortement opposé au PIS. On a lutté contre ça, contre cette question de la contractualisation de l'aide. Et donc le fédéral nous a fait gentiment rentrer dans le rang, puisqu'en fait on ne doit même pas rembourser, c'est juste qu'il ne nous paye pas l'année suivante. Donc c'est la manière la plus facile de récupérer l'argent. Et donc, cette violence que l'institution subit, elle la reporte sur ses travailleurs, en disant, en fait, si, il faut quand même faire des pistes. Cette violence se reporte forcément sur les bénéficiaires. Et donc, on est dans un climat extrêmement violent dans les CPS, quand on est dans des périodes de crise, effectivement, se traduit par des violences réelles, des violences verbales, ça veut dire que des violences physiques des bénéficiaires vers nos collaborateurs, qui sont inacceptables.
mais qui sont compréhensibles dans la plupart des cas. C'est-à-dire que ces gens vivent, c'est ce qui a été dit, personne n'a envie en fait d'aller au CPS. Hein. Faut complètement démystifier ça. Personne n'a envie d'aller au CPS. Voilà. La question de la professionnalisation, je suis peut-être un peu plus partagé. Je pense effectivement, pour le voir au niveau du service du comité spécial chinois forêt, on est dans la toute grande majorité des cas, on suit l'avis de l'AS. D'ailleurs, il n'y a rien qui m'horripile plus que dans un dossier, hein, plaise au comité, où effectivement, chaque fois je dis, est-ce que vous pourriez dire à l'AS que c'est son boulot de nous faire une proposition et on va essayer dans la grande majorité des cas de la respecter. Après, nous avons avec notre vision le fait qu'on traite des dossiers très différents, là où un AS parfois, en fonction de l'organisation du CPS, va traiter dans un quartier ou une tranche d'âge, et donc n'a pas une vision globale du CPS, peut parfois passer à côté d'une équité entre différents dossiers. Et donc parfois le comité spécial va dire, oui mais tel dossier qu'on a traité la semaine passée pour globalement la même décision, enfin la même demande mais qui était traitée par une autre assistante sociale, un autre assistant social, était un peu différente. Et donc parfois on recorrige en essayant d'avoir de l'équité. Et tu le disais aussi, je pense que le grand intérêt du politique, et après on pourra parler effectivement des questions, est-ce qu'il vaudrait mieux un seul CPS ou rester à 19, etc., c'est que ça permet, en tout cas en début de législature, de repenser les lignes de conduite. Et donc là, le rôle du politique est clair, c'est qu'à un moment donné, on dit voilà ce que nous décidons, nous politiques, dans l'aide qui va être donnée aux bénéficiaires forestois chez nous. Et après, on fait confiance aux travailleurs sociaux pour appliquer ces lignes de conduite que nous avons décidées. Voilà. Et donc, je pense que le rôle du politique, en tout cas là, est fondamental. Après, est-ce que au quotidien, dans la lecture des dossiers, est-ce que c'est un vrai plus ? C'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, parfois, il y a la sensibilité. Si un conseiller malade, il se fait remplacer et puis il n'y a pas du coup la même sensibilité que son collègue. Comme le disait Yves, si quelqu'un vient en audition, être confronté, je dis toujours en rigolant, enfin vraiment, enfin pour mes collègues, mais quand on est de gauche, c'est parfois plus facile de dire oui à une aide sociale que quand on est de droite dans le discours tel qu'on l'imagine dans l'imaginaire collectif. Il n'empêche qu'en comité spécial, et c'est un des bienfaits du huis clos en CPS, c'est qu'on est généralement tous très humains, et qu'on est face à une situation et qu'on essaie de la traiter de la manière la plus humaine. Je vais m'arrêter ici maintenant, on pourra de toute façon rebondir encore.
J'ose effectivement espérer que de gauche ou de droite, ça ne nous empêche pas d'être humains.
Non mais dans l'imaginaire, c'est pour ça que je précisais, dans l'imaginaire collectif de ce qu'on se dit souvent, des politiques plus dures, plus humaines.
Merci. Omar Diallo, à vous, même exercice, mais avec la particularité, vous n'êtes pas président de CPS, vous êtes assistant social, c'est encore un autre rôle, on l'a un peu évoqué, en tout cas les experts qui ont parlé auparavant l'ont un peu évoqué, donc peut-être une réaction un peu différente de votre part.
Oui, j'aimerais rappeler quelque chose d'abord au départ, quand Yves rappelait l'histoire de la naissance jusqu'à la création des CPAS, j'étais vraiment enthousiaste, c'est comme ça, je vois le métier de mon métier d'assistant social. Mais à la fin du débat, de la présentation, j'étais l'assistant social d'aujourd'hui, en fait, qui avant d'arriver au boulot, s'inquiète de ce qu'il attend, et avant, à la fin de la journée, a toute une journée bien chargée, et avec la volonté de vouloir bien aider, mais revient sur lui parce que il se sent comme s'il est là comme un flic, quelqu'un, parce qu'il est vu comme ça. Aujourd'hui, moi, souvent, dans mon milieu ou auprès de mes proches, ou bien quand quelqu'un me pose la question, tu fais quoi comme métier? Et que quand je dis assistant social et que je travaille au CPS, la réaction c'est, ah bon? Comment tu fais? C'est pas évident pour vous. Donc, cette manière de se présenter ou d'être perçu dans la société, ce n'est pas évident pour eux en tant qu'assistant social. Et souvent, je me compare à un agent du CESERA, un agent protecteur, parce que c'est aussi un agent qui est mal vu dans la société. Et aujourd'hui, travailler au CPS, c'est mal vu par beaucoup de personnes. Parce qu'on est vu comme des personnes qui ne font pas bien leur boulot, qui ne sont pas humains, qui ne sont pas qui sont dans le flicage. Donc ça, c'est une chose. J'ai bien aimé le début, mais aujourd'hui encore, l'autre chose aussi, j'aime bien mon boulot. J'aime bien travailler au CPS, moi, personnellement. Je vais juste... la difficulté, j'ai fait mes études à l'OS. Et quand je suis sorti, je me disais, jamais au CPS. J'avais un travail qui m'attendait à Ulysse. c'était, mais je devais attendre et finalement j'ai postulé comme ça au CPS de Bruxelles. J'ai été engagé une semaine après. Mais après un mois, j'ai jamais voulu quitter le CPS de Bruxelles. J'ai décliné l'offre de Alain, qui est un grand ami aussi dans le cadre de mon bénévolat dans le milieu associatif. Et ce qui est intéressant dans mon métier, en tout cas pour moi, parce que je suis autant bénévole depuis 2015 dans l'associatif, dans l'accompagnement des sans-papiers, mais aussi je travaille au CPS de Bruxelles depuis 2017 et aujourd'hui je suis responsable d'une antenne sociale. Donc j'ai vu aussi l'évolution parce que quand j'étais assistant social, j'ai été engagé. J'avais, à chaque fois que j'avais mes dossiers atteignaient 75 dossiers, j'allais voir ma chef et lui dire, écoute, tu dois me diminuer. Elle trouvait une possibilité de me dire, bon, de me retirer dans la tournante des sans-abri pendant une semaine ou deux semaines, et comme ça pour ne pas... Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, c'est moi le responsable. C'est moi qui gère une équipe, qui réfléchit, qui essaie de constater qui a trop, qui n'a pas trop, et qu'est-ce qu'il faut faire en sorte que mon collègue ne tombe pas malade et qu'il ne m'envoie pas ou ne m'appelle pas tôt le matin pour dire « moi, je ne peux pas venir ». Ça, c'est aussi notre parcours en tant que responsable, mais aussi en tant qu'assistant social. Cela n'empêche pas pour dire, parce que moi, c'est que quand j'ai tout écouté, toutes les réflexions, les orientations qui sont proposées aujourd'hui ou les questionnements soulevés aujourd'hui, c'est la personne qui doit mettre ça en pratique, c'est l'assistant social de première ligne ou des autres services. C'est à lui et à aucun moment, au centre de la réflexion, ça ressort assez. Et ça, c'est une inquiétude que, en tant que mon engagement aussi au niveau politique, puisque quand, à un moment donné, le PTB m'a appelé pour me dire « Oumar, est-ce que ça te dirait de participer à la réflexion du programme du PTB à Molenbeek sur la question de la pauvreté ?» J'étais là en tant que... Je me dis « Bon, c'est une grande responsabilité parce que je suis un acteur social, un acteur du terrain, je fais du bénévolat, je travaille pour le CPAS, l'un des plus grands CPAS de la région de Bruxelles et qui... entre guillemets, on a assez de pouvoir et qu'on nous donne cette possibilité aussi, parce que j'ai bien aimé cette possibilité qu'on nous offre aussi, que les CPS ont pour pouvoir apporter l'aide sociale, l'accompagnement social et apporter des réponses aux personnes qui viennent frapper à notre porte. Parce que c'est aussi notre métier, ça c'est une chose que je trouve que aujourd'hui qui est en train de disparaître. On retire cette envie de venir tous les jours, on retire cette sensation parce que c'est la représentation, c'est l'utilité. Parce que je pense que nous tous qui évoluons dans ça, nous tous qui sommes dans cette salle, il y a une volonté d'aller plus loin, d'apporter plus de répondants. Mais c'est que moi j'aimerais aussi ajouter, parce que quand on dit ça n'apparaît pas dans les programmes politiques, quand vous avez soulevé, je me posais cette question depuis la crise des Covid. Nous, on n'a pas fermé nos CPAS. Mais personne n'en parlait dans les médias. Alors qu'on était là, on faisait face. Et on a été sollicité pour répondre à l'accompagnement aux personnes qui venaient frapper à la porte du CPAS. Ça aussi, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier qu'on était là et qu'il faut en parler tous les jours pour que les assistants sociaux puissent trouver encore du sens. L'historique que tu as raconté, ça nous donne envie de venir tous les jours au boulot. Ça, c'est une chose que j'aimerais, que je trouve que ce qui est important. Par contre, ça m'inquiète ce qui arrive. Parce que cette droitisation de la politique belge, de la vie de la société, ou même l'assistance sociale pense qu'il y a des profiteurs. Ça aussi, c'est inquiétant. Ou à l'école, il y a dans des écoles d'assistance sociale, on tape sur les CPAS. Des profs ont un discours négatif envers le CPAS. Ici, c'était de la blague, certainement, pour attitiller certainement nos réflexions ou à nous amener en tant que politique. Mais il y a certaines... Les mots pèsent lourd, parce que moi, en tant que responsable, si je viens le matin et que je me comporte comme quelqu'un qui n'est pas humain et que je ne tiens pas compte de ce que mes collègues me disent tous les jours au moment du débrief, ça les amène à ne pas se sentir bien et à ne pas apporter la réponse qu'on attend d'eux dans la journée. Et moi, mon rôle aussi, c'est de jouer ce va-et-vient à la fois être compatissant avec mes collègues, mais m'assurer aussi que la mission qui nous attend soit bien exécutée et que la personne qui vient frapper à notre porte trouve de la réponse à pourquoi il est là. Donc, il y a plein de choses. Bon, moi, quand je compare aussi notre CBAS, si je me trompe, Pierre, tu peux me faire corriger après ou apporter ton aide, mais j'aimerais bien que ça soit comme ça, la question de la solidarité généralisée. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons aussi le manque de moyens, de possibilités des CPS comme Molenbeek, comme Anderlecht, qui, pas parce qu'ils veulent juste mettre dehors les pauvres, de leur dire juste traverser le canal et vous allez au CPS, des sans-abri qu'on dit, il faut juste traverser le canal, va te mettre derrière, devant le petit château, tu as facile, le CPS 1000 Bruxelles va te donner. Oui, on a les moyens. Je ne dis pas quand je dis on a les moyens. On a plus comparativement à d'autres CPS, puisque je me suis un peu intéressé à Molenbeek ces dernières années, parce que je réfléchissais aussi, c'est comment on peut mettre en place une autre manière de faire du travail social, une autre orientation. Parce que la particularité de Molenbeek, c'est que c'est une commune assez pauvre, qui est sous tutelle. Il n'y a pas les moyens. Donc, on peut avoir toutes les volontés.
Vous êtes bien la ville de Bruxelles, on est d'accord?
Non, je suis. Je travaille. Je suis résident de Molenbeek. Donc, et mon engagement politique est né de là, parce que ça fait presque depuis la Grèce. Je suis acteur social. Je me suis beaucoup bâti dans l'accompagnement des sans-papiers. J'ai vu la crise arriver en Grèce et qui a été une des raisons même qui m'ont amené en Belgique ici, parce que je savais que je n'allais pas trouver du boulot. Bon, je n'allais même pas être responsable s'il faut dire. Mais bon, j'ai vu les gens qui étaient des personnes actifs dans la société qui étaient riches et qui sont devenus des sans-papiers, des sans-abri. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'approcher et à faire du travail social. Et quand je suis arrivé ici, et aujourd'hui, c'est ce que je vois. Quand j'étais à Molenbeek, au début, quand on me disait « Tu habites quel côté ?» Molenbeek, j'habite l'autre côté de Molenbeek. Sur l'autre côté de Molenbeek, je commence à avoir des sans-abri, comme j'ai commencé à voir en 2008 en Grèce. Et ça, c'est triste. Et ces gens-là, quand ils viennent au CPAS, ils frappent à la porte du CPAS de Molenbeek. La seule chose qu'on leur dit, va de l'autre côté du canal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous ne devons pas accepter cela. Et que politiquement, ça, ce qu'on envisage, j'espère que c'est impossible pour moi, quand je lisais les chiffres, l'étude qui a été faite par la FZTB sur les risques. J'ai regardé pour Molenbeek. Moi, j'ai une antenne aujourd'hui qui a plus de 1000 dossiers en aide à Molenbeek. L'équivalent, juste sur les chiffres de mars, d'avril 2024 ici, il faut des antennes sociales pour, si on, aujourd'hui, je vais juste clôturer par ça, et ce n'est pas que deux antennes. Moi, j'ai une équipe de 24 personnes, c'est ce qui veut dire 48 personnes qu'on doit engager. Et donc, Molenbeek n'a pas cette possibilité. C'est impossible. J'ai vu les chiffres à 1000 Bruxelles. C'est impossible. Il ne faut même pas essayer de réfléchir. Ça, c'est la crise, c'est la faillite totale. Je me limite là pour le moment.
Ah oui, ça fait tout pile 4 minutes, là, je crois.
Je vais essayer de la faire courte.
D'autant qu'il parle, il a beaucoup parlé de Molenbeek, donc.
Oui, il a même déjà. Si jamais je déborde, coupez mon micro alors. le CPS, en fait, pour les nécessiteux, c'est vraiment, ça représente un dernier rempart. Nous sommes conscients. Du travail que font les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux. Nous n'arrêtons pas de leur tirer notre chapeau parce que nous sommes évidemment conscients des difficultés du terrain. Mais dans la pratique, les réalités d'une commune ne sont pas celles d'une autre. Le CPS de Molenbeek n'a pas les mêmes réalités que le CPS de Haut-Lué, par exemple, et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque CPS normalement met en place des lignes de conduite qui lui sont propres par rapport à ses réalités. Et nous, en tout cas, à Molenbeek-Saint-Jean, notre façon de procéder, c'est de... on est conscient que l'assistante sociale ou les assistants sociaux sont en première ligne, comme on dit. Ils sont face aux bénéficiaires. Et donc, pour faciliter le fonctionnement et les prises de décision, il y a déjà des lignes de conduite qui existent. Et l'assistant, les assistants sociaux, leurs propositions de décision sont toujours visées par un responsable qui est à la base assistant social aussi. Et donc, très souvent, je dirais dans 9 dossiers sur 10, le responsable suit la proposition de l'assistant social. C'est très rare qu'on tombe sur un dossier où ça arrive, mais c'est rare, où on a un avis différent du responsable de celui de l'assistant social même. Et donc, nous, au niveau des comités, parce qu'il y en a plusieurs au niveau des comités, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit des dossiers, il y a des dossiers d'un côté qui, je dirais entre guillemets, respectent les lignes de conduite, et en exergue, il y a des dossiers qui dérogent aux lignes de conduite. Et cela nous amène, nous, à nous positionner, mais comme cela a été dit, on n'a pas vu le nécessiteur, on n'a pas vu le bénéficiaire, la personne qui fait la demande. Donc nous, on juge sur pièce. Et c'est comme ça que, en fonction des données que nous avons, on arrive à se positionner. Et je puis vous assurer que cela ne se fait même pas par rapport aux couleurs politiques. Ça, vous pouvez me croire. Parce qu'il est déjà arrivé, moi-même, je présidais un comité que mon collègue du même parti que moi n'avait pas le même avis que moi sur un dossier. Et j'avais plutôt quelqu'un d'une autre couleur politique qui avait mon avis. Donc, cela prouve que on regarde les dossiers, on regarde les éléments que nous avons, on regarde les besoins, on regarde les explications. Et même quand nous devons prendre une décision qui va à l'encontre, positivement ou négativement, de celle qui avait été proposée par l'assistante, les assistants sociaux, l'assistante sociale ou l'assistant social, il faut toujours motiver. Donc, dans un comité, on ne peut pas avoir un conseiller qui dit, par exemple, là, on avait dit oui, moi, je dis non, il s'arrête là. Ce n'est pas possible. Il faut dire aux autres pourquoi. Et là, j'en viens à ce qui avait été dit par rapport aux compétences des conseillers. Et en tout cas, dans les comités, dans différents comités que moi, je vois chez nous à Molenbeek-Saint-Jean, on a divers profils. Moi-même, par exemple, mon expérience de soignant en maison de repos, mon expérience de directeur de maison de repos me servent beaucoup, ces deux expériences-là, sur certains dossiers. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas à Molenbeek-Saint-Jean, on a une maison de repos, Arcadia, et on a même une résidence service social aussi. Et donc, quand on a des dossiers comme ça, je n'ai pas besoin d'être, je vais dire, face à la personne pour savoir, parce que c'est mon quotidien, c'est ce que je fais tous les jours d'ailleurs. Et donc, on a divers profils, comptables, ainsi de suite. Il y a même un juriste. C'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, on a divers profils. Et croyez-moi, ça nous sert beaucoup dans nos discussions. Parfois, on profite même de l'expérience de l'autre collègue et qui nous explique certaines choses. Et c'est ça qui fait la beauté, quelque part, je dirais, de ce que nous traitons au CPS, parce que ça se fait à huis clos. Et effectivement, nous pouvons échanger facilement. Ce n'est pas comme au conseil communal quand il y a la partie publique où il y a le public qui est là. Parfois, certains veulent faire un peu le show pour animer le public, pour bomber le torse et tout. Là, on n'a pas besoin de ça parce qu'on traite de l'humain et on ne regarde... On ne connaît même déjà pas les couleurs des gens. Donc, c'est vraiment ce que nous avons en face de nous. C'est ça que nous traitons. Pour l'instant, je préfère m'arrêter là.
Oui, mais on va rester avec vous, puisqu'on va directement enchaîner, puisque... Alors, j'entends, hein, effectivement, j'en suis heureuse qu'on traite les humains comme des humains dans la CPS. C'est la première chose à faire, je crois. Alors, Vous le savez, on va voter dans quelques jours. Il y a déjà eu des élections au mois de juin. Vous savez qui a gagné, qui a moins gagné, qui n'a pas gagné. Il y a des réformes qui sont évoquées, notamment au niveau de l'aide sociale et des CPS. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous qui êtes Lazare Mboulou, vice-président et maire d'un CPS? Est-ce que ça ne va pas un peu chambouler votre façon de travailler dans les prochaines années?
Je vais peut-être surprendre. Je voudrais simplement déjà dire que on met un peu de levure dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, je trouve ça dommage parce que nous connaissons la Belgique. Nous voyons nous-mêmes depuis les dernières élections, le gouvernement fédéral n'arrive pas à se mettre en place. Ça veut dire qu'il y a des points de vue qui divergent. Ça veut dire qu'il y a des discussions qui se font. Il y a eu des fuites dans la presse. Il y en a certainement qui ont voulu que ça se fasse pour des raisons qui leur sont propres. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète parce que ça se trouve, dans quelques jours, dans quelques semaines, le gouvernement sera mis en place. On ne verra rien de tout ça dans le concret ou dans la pratique. Mais admettons que cela se fasse pour le CPS, ça ne sera pas une bonne chose, ça c'est clair. Personne de ceux qui sont au CPS ne pourra applaudir parce que nous savons tous que cela va impacter les CPS, cela va impacter les travailleurs sociaux, cela va impacter les citoyens, ça va impacter tout le monde. Et donc, sans aller plus loin, simplement parce que je dis que je ne voudrais pas tirer des plans sur la comète, si jamais, on pouvait, quand on dit si, on risque de construire la tour Eiffel avec si, partout. Donc si ça se mettait en place, ça ne sera pas une bonne chose.
Alors, je précise, il y a effectivement des fuites, mais il y a aussi des propos tenus par des présidents de partis qui ne sont pas des fuites du tout. En tant que journaliste, je peux aisément faire la part des choses entre les deux. Donc, il y a effectivement des fuites venant de partis, mais il y a des propos qui ont été tenus et assumés de la part de présidents de partis. Et voilà, ça,
ce ne sont pas... Rien encore de
clairement, les discussions sont toujours en cours. Voilà. Peut-être des réactions avant de donner la parole à la salle. Peut-être des réactions de...
Moi, je suis un peu surprise parce que, au-delà des fuites ou des propos, il y a des programmes. Donc, ça a été un des sujets fer de lance du programme du MR lors de la dernière campagne. Ça a été de dire on va sanctionner les chômeurs de longue durée. Donc, ça, c'est pas. Je veux dire, honnêtement, là, c'est. Ils ne sont pas arrivés masqués, ils l'ont annoncé. Et je pense que ça a séduit un pan important de citoyens, cette idée de sanctionner, parce qu'il y a toujours en filigrane cette question de « vous l'avez bien cherché ». Et donc, il faut mériter cette aide. Et si on ne s'active pas, eh bien, on est sanctionné. Comme si la responsabilité, le poids de la charge, la responsabilité... en matière de recherche d'emploi et de réinsertion socio-professionnelle, elle pèse toujours sur l'individu. Et on n'interroge jamais la réalité économique. Là, maintenant, avec Audi, on est en train d'être spectateur de milliers de pertes d'emplois, que ce soit les travailleurs d'Audi ou tous les sous-traitants. Et on fait comme si ça n'existait pas. Et donc moi, je suis assez sidérée par ce que je viens d'entendre. Quelqu'un qui est militant d'un parti, qui est impliqué plus que militant parce qu'il est mandataire, et qui vous dit « non, non, mais c'est juste comme ça, c'est pas sûr ». Non, ça fait partie de votre programme, donc assumez-le jusqu'au bout.
Mais nous connaissons la Belgique, hein, nous connaissons tous la politique en Belgique. C'est une politique de compromis. Nous connaissons aussi, il y a des partis qui promettent qu'on ne paiera plus rien, tout sera gratuit, on les connaît. Mais on sait que quand on arrive aux affaires, ça ne se passe jamais comme on a dit.
Pour le coup, les socialistes ne seront pas au gouvernement. Vous aurez une autoroute pour y aller.
Parce que il y a toujours des compromis et on le sait, ce n'est pas nouveau. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse comme si nous avons, nous, ici, la même mise sur ce qui se passe au fédéral. Parce que, je ne sais pas, sauf s'il y a quelqu'un qui est là qui pourra peser sur ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas... Quand on me parle du niveau communal, il n'y a aucun souci au niveau fédéral. Je ne sais pas, quelqu'un ici, s'il a une prise dessus.
Oui, ceci dit, il y a un président de CPS de votre parti qui est assez haut placé dans les discussions qui peuvent se faire.
Mais ce n'est pas au communal.
Juste pour dire aussi qu'on a beaucoup parlé du financement des CPS via leur réintégration. Ce n'est qu'une partie de l'aide qu'on donne. Il y a tout le droit à l'aide sociale qui est complètement discrétionnaire. Donc chaque CPS fait littéralement ce qu'il veut. Donc c'est par exemple décider de donner des aides santé. C'est le fait de donner, pendant le Covid à Forêt, on avait décidé volontairement de donner une aide financière aux gens qui étaient sans titre de séjour en se disant qu'ils souffraient évidemment bien plus que d'autres de pertes de revenus liées au Covid. C'est le fait de donner des primes de rentrée des classes pour toucher principalement des familles, et on sait que c'est beaucoup de familles monoparentales. Donc le fait de toucher en plus, d'avoir un impact sur le revenu d'intégration, à Forêt on parle d'environ, pour donner des chiffres, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres tout à l'heure, mais c'est une augmentation d'environ 5 millions d'euros, entre 4,5 millions et 5 millions, sur un budget du CPS ou une dotation communale, donc ce que la commune donne, qui est d'environ 20 millions. On n'a pas d'autres sources de financement. Donc, c'est 5 millions en plus qu'on doit aller chercher chez les citoyens forestois, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, et c'est effectivement ce qui est proposé probablement par le gouvernement fédéral, que nous fassions des économies sur l'ensemble des autres aides. Et donc, effectivement, ces mesures sont... Alors, ça a été dit par mon collègue. En fait, ça ne pourra pas se passer. Enfin, je ne sais pas comment, mais je me réjouis de savoir que peut-être ça ne se fera pas et que ce sont juste des plans sur la comète. Ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver parce que je ne sais pas aujourd'hui comment, chez moi, nous ferons pour absorber 1000 dossiers en plus sur 2000 actuellement. Donc 50% d'augmentation. Ça veut dire 40 assistants sociaux en plus, alors qu'on n'arrive déjà pas à recruter ce dont on a besoin aujourd'hui.
Ouais. Brièvement. Oui, c'est juste, donc, ça m'inquiète parce que ici on est des citoyens de nos communes mais avant et des acteurs politiques et que nous représentons notre commune et que Monsieur Lazare qui est vice-président du CPAS qui connaît le CPAS de Molombe et qui pour moi il n'y a même pas à se poser la question d'attendre, c'est de prendre position claire. Et de condamner. C'est ça aussi une responsabilité de faire partie d'un parti politique. C'est aussi ça une responsabilité d'être responsable à un niveau comme en tant que vice-président.
Donc, alors, il n'a pas dit qu'il était pour ou contre, il a dit que ce n'était pas encore fait comme ça.
On ne doit pas attendre, se poser la question si il faut attendre. Non, pour moi, ce n'est pas normal. La question de Molombe, tout le monde. Nous sommes tous au courant de la précarité qui est au CPS de Molombe, de la difficulté pour le personnel des bénéficiaires. Tantôt, on disait qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à aller frapper à la porte. Comme si, pourquoi ? C'est parce que, quand on regarde les services, il faut plus décentraliser. C'est une commune de 100 000 personnes, avec 3 antennes sociales, c'est presque rien. Avec 80 assistants sociaux, c'est presque rien. Comment vous voulez que ces personnes-là puissent faire du travail social et aller vers les personnes qui doivent venir frapper à la porte du CPS? Ça, c'est une des choses. L'autre chose que moi, je trouve aussi à ce niveau, ici, nous devons tous se poser la bonne question. En tout cas, moi, en tant qu'assistant social et en tant que politique et qui est actif dans ma commune, j'aimerais bien pouvoir me dire que ce n'est pas une question de se poser la question pour des personnes qui ont cotisé. Ce n'est pas juste des gens qui se sont retrouvés comme ça au chômage, c'est des gens qui ont passé leur temps à travailler et qui ont cotisé. Et qui, du jour au lendemain, de là-haut, quelqu'un décide comme ça pour dire « Mais non, après 2 ans, tu dois te retrouver au CPAS. » Cette responsabilité, ce manque à gagner, les 30% qu'on veut, parce que à Molombe, c'est 70% de remboursement, mais les 30% du manque à gagner de la dotation, ça va venir d'où? C'est qui va financer ça? Moi, c'est ça ma question. En tout cas, ici, pour moi, nous devons tous se poser la question et prendre position. Ce n'est pas attendre le 14 octobre ici pour dire « Ah non, on ne savait pas et puis maintenant, on va attendre 6 ans. »
Ce qui est effarant, en fait, c'est que ces 3 dernières années, au niveau des fédérations des CPS du pays, hein, Fédération bruxelloise, Fédération wallonne, du côté flamand également, on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait une surcharge de travail en CPS, qu'il y avait une complexification des situations vécues par les personnes, la crise du logement étant une des variables qui complexifie très fort l'accompagnement social des personnes que nous recevons, parce qu'on peut stabiliser la question financière, mais si les personnes peinent à trouver un logement, c'est extrêmement difficile de pouvoir se projeter et d'avoir ce projet, ce fameux projet d'intégration sociale. Comment être en projet si on n'a même pas de stabilité et de logement et un toit au-dessus de sa tête? Donc, C'est assez effarant parce que là, on était quand même tout parti politique confondu en fédération de CPS. On avait nos réunions. Tout le monde était excédé, que ce soit le MR, que ce soit le PS, écolo, les engagés. Tous les présidents de CPS étaient unanimes pour dire qu'on buvait toutes et tous la tasse et qu'il fallait impérativement penser à des moyens structurels pour financer les CPS, pour sortir de la logique d'appel à projet, pour accompagner dignement nos publics. Rappelons quand même, parce que ça n'a pas été évoqué, qu'au moment de la loi organique de 76, il y avait 8000 bénéficiaires pour tout le pays. Aujourd'hui, moi, à Saint-Gilles, quand j'ai démarré en 2019, il y avait 5000 personnes aidées. On est passé à 9000 personnes aidées. Okay ? Donc on est très très loin. Et évidemment, avec cette mesure, on va complètement inverser. On aura plus de personnes bénéficiaires de l'aide sociale que de chercheurs d'emploi. Donc on est dans quelque chose de complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a des plaidoyers qui sont élaborés tant par des travailleurs sociaux que par des mandataires politiques, tous bords politiques confondus. Et puis on part en campagne, on se positionne de manière idéologique avec un discours très simpliste de dire « Oh, ça suffit, ces gens qui restent trop longtemps », sans interroger le pourquoi du comment ces personnes restent aussi longtemps au chômage. La question des malades de longue durée, c'est un tabou dans notre pays. On n'en parle pas, comme si ça n'existait pas, comme si les problématiques de santé physique et mentale n'existaient pas. Alors qu'on, depuis le Covid, on ne fait que parler d'anxiété, aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes. La question de la santé mentale, la question de la prise en charge et de la nécessité de renforcer les services de santé mentale qui sont eux aussi exsangues. Et donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans une forme de cynisme qui est complètement aberrant parce qu'on pense des mesures qui sont en total décalage avec la réalité objective. Je suis désolée, que fait-on des malades de longue durée ? Je ne suis pas sûre. Qui devrait être pris en charge par l'INAMI. Je ne suis pas sûre qu'en arrivant en CPS, on ait la solution miracle pour les mener vers l'emploi. Voilà.
Il y avait Yves Martens qui avait une...
Alors je passe la parole à Yves et après on fait circuler le micro tout de suite.
On peut déjà faire circuler le micro, je pense, oui.
Oui, juste, je pense que sincèrement, on ne peut pas laisser dire qu'on tire des plans sur la comète. Les analyses que nous avons faites, que ce soit dans le milieu associatif, dans les syndicats, elles sont super sérieuses. Et malheureusement, je suis assez vieux pour savoir que les prévisions qu'on a faites dans des analyses comparables se sont révélées chaque fois vraies. En 2004, quand on avait dit que l'activation du comportement en recherche d'emploi entraînerait des dizaines de milliers d'exclusions, plus de 50 000 exclusions définitives du chômage. Quand on a limité à 3 ans les allocations d'insertion, la FGTB, et on avait tiré sur Thierry Baudson qui avait dit « il va y avoir 50 000 exclus », on avait dit « mais non, c'est un bout de feu, on fait peur aux gens ». On avait fait les mêmes analyses, on arrivait au même résultat. Limitation à 3 ans des allocations d'insertion, plus de 50 000 exclusions définitives. 2 × 50 000, c'est 100 000. La seule chose qu'on peut arriver et dont vous pourrez être fier si cette mesure-ci passe, c'est qu'en une seule réforme, vous aurez exclu d'un seul coup 100 000 personnes, alors qu'il vous en a fallu 2 réformes précédemment pour en...
On vous entend doucement aussi.
Pour en exclure autant. Oui, mais bon, quand même, je ne peux vraiment pas laisser dire ça, parce que c'est vraiment... On travaille sérieusement, quoi. On fait des analyses, on ne tire pas des trucs de notre pouce, quoi. On travaille depuis des mois sur cette question, et on le fait de manière sérieuse.
Excusez-moi, mais je voudrais un peu... rappeler une chose, je ne suis pas négociateur au fédéral.
Il faut faire remonter.
Alors, s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas négociateur au fédéral. Ne faisons pas jouer nos casquettes, nos couleurs politiques, syndicales ici, s'il vous plaît. On est en campagne électorale, je sais, mais soyons quand même... bon, voilà. Donc, je voudrais dire que je ne suis pas venu ici représenter le MR. Je suis venu ici représenter le CPAS de Molenbeek. S'il fallait que je vienne ici représenter le MR, s'il fallait représenter le MR, ça n'aurait pas été moi puisque j'en ai pas qualité. Je suis vice-président du CPAS, je suis venu en tant que vice-président du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand nous traitons des dossiers au CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, je ne téléphone pas au président du MR pour demander son avis sur des positions à prendre, sur des décisions à prendre. Nous traitons de l'humain, nous regardons les dossiers. N'essayons pas de faire jouer nos positions, nos positionnements. J'entends, on me dit ici que voilà, le Parti socialiste ne sera pas là, vous aurez le boulevard. Mais moi, je pense que quand le président du CPS de Forêt dit que le fédéral avait fait comprendre à son CPS qu'il fallait se ranger par rapport au PIS ou je ne sais pas quoi vous avez dit, je pense que le Parti socialiste n'était pas dans l'opposition à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas qu'on aille sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Restons sur ce qui est local, sur les CPS. Parce que, tout ce que nous disons, personne n'a dit ici que, bravo, c'est très bien que les gens... Moi-même, j'ai connu le chômage dans mon parcours. Je suis directeur, j'ai été soignant, mais j'ai connu aussi le chômage. Donc, personne ici, de nous quatre, a dit que, bravo, c'est une bonne chose. J'ai simplement dit que jusqu'au moment où nous parlons, rien n'est fait. Et nous savons tous en Belgique qu'il y a toujours des compromis, nous le savons. C'est tout ce que j'ai dit.
Avant de passer la parole à la suite de la salle, je vais quand même dire deux petits mots en tant qu'organisateur et recruteur. Donc on a toujours veillé à respecter nos invités. Moi j'ai entendu que Lazare Mbouloulou a dit que si jamais ça se passait, ce serait une mauvaise affaire pour le CPS de Molenbeek. Bon, ça me suffit. Je pense que c'est tout à fait vain d'attendre de lui, vu son affiliation politique, qu'il tape sur la politique de son parti. On a quand même tous entendu que, comme les autres, il a dit « c'est pas une bonne affaire pour mon CPS ». Je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien du tout. Voilà. Alors, je vais passer la parole aux gens qui l'ont demandé dans la salle. Je suivrai les indications de Mariam pour me dire à qui le donner. Et si vous souhaitez vous présenter avant de prendre la parole, ça peut être intéressant.
Voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Cheikh Dany Hassan, président de CPS d'Ixelles. Moi, je nourris une forte inquiétude, il faut la comprendre. Donc la commune d'Ixelles nous a accordé dollars de dotation, nous sommes à 30 millions et d'après les prochaines projections, si jamais les mesures vont s'appliquer, ça va coûter 11 millions au CPS, donc à la commune d'Ixelles. Comment financer ça? Donc il faut comprendre qu'il y a une grande inquiétude, une grande angoisse, comment on va faire notre budget. Donc il faut savoir que le CPS ne fait pas que donner de l'argent, il assure certaines missions au profit de la population. Nous avons deux maisons de repos, ça veut dire la deuxième commune au niveau de la région bruxelloise. Nous avons un service de mobilité qui permet à des personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner, de se déplacer gratuitement vers les hôpitaux, parce que sinon, vous imaginez, entre la résidence Vana et à l'hôpital, il faut payer 90 euros. Qui va se permettre de payer 90 euros? Donc, il y a une angoisse concernant le fait que si jamais on ne peut plus budgétairement assumer la mission des CPS, et comme on le dit, un parti le dit, contentez-vous assurer l'aide et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer des services et qui va payer? C'est les citoyens qui vont se payer. Merci.
Brièvement, s'il vous plaît, comme ça on permet à d'autres de poser des questions.
Donc, moi je fais partie du Front commun SDF et l'Union bruxelloise. Donc, nous, on fait des économies pour les CPS. Donc, il y a une étude sur la prévention du sans-abrisme. C'est pour faire des économies au CPS. Ça, c'est déjà une chose avec la carte blanche et l'étude de l'ULB sur la prévention du sans-abrisme. Et je voudrais savoir combien de personnes restent combien de temps au CPS et il n'y a pas que le revenu d'intégration qui est donné au CPS. La problématique, c'est la sécurité sociale et c'est que les salaires aussi sont très bas. Il y a beaucoup de travailleurs qui viennent demander des aides ponctuelles pour loyer, pour aide énergie et tout ça. Et je voudrais savoir combien de gens restent en général dans les CPS chez vous. Parce que si vous faites un bon travail, les personnes ne doivent pas rester au CPS. Si c'est un mauvais CPS, ils restent longtemps. Voilà.
D'abord une réponse ou bien on prend les questions directement?
En fait, j'en ai trois, question. Mais je veux dire, les deux premières, c'est peut-être oui ou non. Je connais quelqu'un donc, qui est étudiante, qui bénéficiaire du CPS dans une ville. Elle a peur de domicilier ailleurs parce qu'elle pourrait ne pas être acceptée au CPS ailleurs. Donc, en fait, chaque CPS a ses critères. Bon, question qui va un petit peu avec dans mon esprit, un automatisme, c'est est-ce qu'il y a du clientélisme et du communautarisme dans les critères de choix? Et la troisième question, c'est plutôt... alors là, je suis surtout activiste pour le climat et je vois les effondrements. Les effondrements, c'est écologique et économique. Les deux sont extrêmement liés, justice climatique, justice sociale. Est-ce qu'on peut rêver, comme les syndicats commencent à le faire,
que des organes sociaux comme le CPS réfléchissent à c'est quoi un emploi, c'est quoi bien manger, c'est quoi bien se loger. Je dirais que tous ceux qui sont au contact de la pauvreté et de la vie réelle ont fait face au discours de Pouyamé qui dit « Oui, c'est très bien les scientifiques, mais il y a la vie réelle. » Donc la vie réelle, c'est quoi? On vient de renoncer, on a reporté les gaz à effet de serre. Nous, grands-parents pour le climat, on est furieux. Mais tous les partis de gauche à droite disent « Non, c'est du pragmatisme, il faut renoncer aux mesures écologiques. » Donc je voudrais savoir comment vous ressentez ça.
Merci, monsieur. Alors, peut-être... Oui.
Moi, je veux bien réagir. Donc, sur la question de combien de temps, en moyenne, les gens restent au CPS, c'est difficile. C'est fonction, effectivement, des situations dans lesquelles se trouvent les personnes. Donc, vous évoquiez les publics sans-abri, par exemple. La réinsertion de publics de personnes en situation de sans-abrisme, fatalement, ça va prendre plus de temps. Parce qu'au-delà du sans-abrisme, se posent parfois d'autres problématiques, des problématiques de santé, des problématiques d'assuétude aussi, des problématiques de rupture sociale, familiale. Donc, il faut remobiliser. Tout ça prend du temps. Donc, et puis, on a effectivement des publics que l'on réinsère très rapidement, puisque la principale difficulté est celle simplement de la perte de ressources financières et que le chemin vers l'emploi, moyennant une formation et une expérience probante, bah, finalement, renoue assez rapidement vers le marché de l'emploi. Et l'expérience CPS était juste un moment, un petit passage et un moment de difficulté, une rupture de contrat sans avoir suffisamment cotisé pour accéder à des allocations de chômage. Donc j'ai envie de dire qu'on a un peu de tout et que je voudrais quand même rappeler qu'on a aussi une grosse mission d'émancipation et d'autonomisation. Donc en tout cas, au niveau du CPS de Saint-Gilles, on agit vraiment sur les deux versants. On a un axe première ligne qui est principalement de l'accompagnement social de première ligne, où on pose un petit peu la situation, de voir toutes les problématiques que la personne rencontre. Ça peut être du surendettement, des problématiques de logement, j'évoquais les problématiques de santé. Et puis ensuite, on voit pour aller vers l'emploi. Et donc, pour répondre à la question suivante, on est aussi sur un enjeu de durabilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de penser aussi l'insertion de manière durable. Il ne s'agit pas simplement de proposer un contrat d'insertion pour que dans les 5 ans qui suivent, la personne revienne puisqu'elle sera sanctionnée. L'idée, c'est aussi de penser à un projet de formation, de pouvoir permettre à des personnes d'acquérir une formation qualifiante, certifiante. On a un nombre important de personnes qui passent au secteur emploi. Alors oui, tout à l'heure, tu posais la question de savoir quelle est la pertinence de ça. Ben, j'ai envie de dire le fait d'être déjà... On a une approche de travail social globale où finalement la personne est appréhendée sous tous les aspects. On travaille la question financière au travers du service social général et de l'octroi du revenu d'intégration. On aborde les questions médicales, de santé, les questions familiales puisqu'on accompagne les familles dans tout ce qui est soutien scolaire, enfin prise en charge des frais scolaires. Et puis il y a le volet sur endettement, logement, recherche de logement. Donc c'est vrai qu'au CPS, on va jusqu'au troisième âge puisque évidemment les seniors ne sont pas en reste. Donc on travaille sur des enjeux de rupture, d'essayer tant faire se peut que les personnes qui sont non seulement seniors, mais en situation de précarité, en mauvaise santé, ne soient pas simplement seules et dépourvues et isolées. Donc il y a aussi tout un travail avec des aides ménagères à domicile. Et on fait ce lien avec la maison de repos et un service de jour avec lesquels on est en étroite collaboration. Donc la durabilité, on travaille sur des enjeux d'insertion durable par la formation, mais pas seulement. On est aussi sur des ateliers au travers de l'épicerie sociale que nous avons développée, où le CAFA et SBL avec lesquels on est en étroite collaboration, avec le bien manger, le logement, travailler sur aussi la dimension énergétique de comment sensibiliser à mieux isoler son bâti, comment accéder à des primes pour pouvoir rénover le logement. Donc tout ce travail-là de sensibilisation autour des enjeux environnementaux, il est aussi fait, mais avec une dimension pédagogique. Parce que le problème de ce qui manque aujourd'hui, et je pense que pour toutes les questions qui nous ont un peu... qui ont cristallisé ces derniers mois les questions autour de l'environnement, en tout cas en région bruxelloise, c'est la question de la pédagogie. Donc en milieu populaire, comment sensibiliser les publics sans qu'ils aient le sentiment qu'en fait cette réforme ou cette évolution vers moins de ressources énergivores, etc., se fasse contre eux. Ils ont parfois le sentiment d'être ceux que l'on stigmatise en disant les mauvais citoyens. Donc l'enjeu, c'est de faire de la pédagogie et à l'échelle locale, je pense que c'est déterminant parce qu'on observe quand même un phénomène de gentrification qui est réel où l'idée, c'est de n'est pas d'opposer des publics entre des habitants historiques qui sont parfois dans des situations financières difficiles et qui n'arrivent pas à isoler leur logement parce que pas les ressources suffisantes, et puis de nouveaux venus qui achètent des maisons, qui les rénovent via les primes Rénolution, et les autres, et des habitants historiques qui se disent, mais en fait, on est en train de renverser ici. Enfin, moi, je ne reconnais plus mon quartier, je ne reconnais plus ma ville. Et en fait, ça crée des dynamiques où certains mouvements créent de la polarisation, se nourrissent de cette polarisation. Or, l'enjeu, c'est de faire lien, c'est de faire société et de faire cohésion.
Oui, je vous rappelle juste qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour une dernière salle de questions, donc essayez de répondre brièvement, comme ça, on doit finir dans 10 minutes.
Alors, effectivement, à Forêt, on voit le CPS comme une pierre angulaire de notre programme, parce que effectivement, on a parlé, enfin, et vous parliez aussi de, on est dans une phase de transition, on le sait, et que forcément, une transition, on parle chaque fois de transition socialement juste, elle est inéquitable, et donc, si on avait évidemment plus de moyens, c'est à ça que ça servirait, entre autres. Alors, à notre niveau, on essaye chacun, avec des manières différentes. Typiquement, nous, on a soutenu des initiatives de panier via le réseau des GASAP. On est en train d'essayer de développer une maison l'alimentation ou quelque chose du genre en partenariat avec la commune. Donc, on essaye de mettre en place des choses. Après, effectivement, les moyens sont relativement limités. On a peu de public qui est propriétaire. Donc, effectivement, même si on leur donne un accompagnement à l'accès aux primes, ça reste quand même très, très limité. Et on a développé depuis quelques années une cellule d'éco-ouvriers pour effectivement sensibiliser à ces petits gestes, puisque malheureusement, souvent, la qualité du logement diminue avec le loyer qui diminue aussi. En fait, ce sont ceux dont bénéficient nos bénéficiaires. Ils ont des petits loyers ou moyens, ils ne sont pas si petits que ça, mais avec généralement des très, très grosses factures d'énergie. Et donc, on sait qu'on peut avoir un impact à ce niveau-là. Mais donc, vraiment, la question de l'alimentation était au centre de notre programme ces dernières années, et j'espère pouvoir qu'on ira le développer plus tard, quoi.
Brièvement, comme ça, on prend peut-être une toute dernière question.
Moi, je voulais juste, parce que c'est un peu difficile ma position, je vais faire des comparaisons parfois à Mille-Bruxelles et à Molenbeek. Pour la question des sans-abri, je pense qu'en tant qu'assistant social qui a travaillé avec le Home Baudouin pendant longtemps et dans l'accompagnement, qui, je sais, c'est un public aussi précarisé et difficile, mais aussi le CPS de Bruxelles accueille plus de sans-abri que toutes les autres communes de la région. Ça, c'est une particularité, et on accompagne. Il y a de la volonté d'accompagner les personnes sans ce choix ou sans abri. Mais aujourd'hui, nous savons tous que quelqu'un qui vient juste de perdre son logement a plus de facilité à s'intégrer plus rapidement que quelqu'un qui est resté dans le sans-abri pendant plusieurs années. Donc ça, c'est aussi d'autres approches que les assistants sociaux. On essaye d'avoir un accompagnement beaucoup plus solide, beaucoup plus soutenant. Mais aussi, il y a la question de logement, la problématique du logement qu'on n'évoque pas beaucoup aujourd'hui, même si il y a un accompagnement vers les CPS, mais la possibilité de trouver un logement adapté et disponible avec les moyens nécessaires pour permettre à ces gens-là de se loger reste pour nous. Mais quand je regarde la situation à Molenbeek, ce n'est pas pareil. L'accompagnement qui est le moins mis parce que les services ne sont pas décentralisés, ne sont pas beaucoup plus proches des citoyens, c'est un peu compliqué. Mais au niveau de l'écologie, au CPS de Bruxelles, le service énergie, la cellule énergie du CPS de Bruxelles essaie aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus pédagogique qu'on met en place, il y a cette volonté-là. Mais c'est une grande ville, c'est énorme, c'est pas évident. Les logements aussi ne sont pas adaptés et donc ça demande beaucoup de moyens. Et puis quand quelqu'un est précarisé, parce que c'est ça aussi qui est la situation, quelqu'un qui est dans un logement, une famille de 5 à 6 personnes dans un logement de 2 chambres, un ancien logement qui n'est pas adapté, c'est difficile d'amener à cette personne de se dire « Ah, tu dois éteindre, tu dois faire comme ça » parce qu'il est préoccupé par autre chose. Ça, c'est aussi quelque chose de difficile. Mais qu'est-ce qui est plus utile dans tout ça? C'est avoir une volonté politique derrière qui amène. Parce que souvent, c'est ce que je dis, atteindre quelque chose, c'est juste donner du sens. Amener les gens à se dire, donner les moyens, les possibilités. Ça, c'est une chose. Maintenant, en tant qu'administrateur des logements molenbeekois à Molenbeek, je vois l'état délabré des logements sociaux aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont en lien avec le logement social. Ce parc immobilier doit être rénové. Et ça, Le CPAS, ce n'est pas au CPAS de faire ça, c'est à la région. Donc, il faut donner les moyens. Les communes peuvent apporter, identifier, accompagner les résidents de ces logements-là. Mais les ressources doivent venir de la région. C'est pour cela la question de solidarité qui a été évoquée dès au départ. Il faut qu'il y ait plus de solidarité pour les communes les plus riches puissent être solidaires aux communes les plus faibles en termes de finances aujourd'hui. Sinon, le risque est trop grand qu'on va juste assister au transfert de pauvres de commune en commune et ça va compter. Et qu'avec le PTB, notre volonté, c'est d'élargir le travail social auprès et aller plus loin, plus proche des gens pour pouvoir apporter des solutions. Quand je regarde là où mon confrère, il m'a dit qu'il travaille, il a travaillé à Cardi à la maison.
Mais
vous avez fait de la compétence.
Okay. Dans la maison de pot privée.
C'est ça. Qui aujourd'hui, le coût que cette maison coûte au CPS, c'est énorme. Mais quand on regarde les lits disponibles qui sont exploités, c'est inexploité. Alors qu'il y a des sans-abri qui sont en manque, oui, je vais clôturer avec ça, qui sont en manque de place. Pourquoi ne pas ouvrir d'autres ailes pour permettre à ces sans-abri-là à se loger? Parce que c'est ça la question. C'est la volonté politique qui est derrière. Et c'est ce que nous devons changer. Et donner du sens à notre activité dans nos communes, faire en sorte que les citoyens se sentent chez eux.
Je ne voudrais pas répéter certaines choses qui ont déjà été dites, puisque c'est ce que j'avais aussi dans mes notes, notamment insertion socio-professionnelle, épicerie sociale, puisqu'on en a aussi à Molenbeek-Saint-Jean. Où les denrées sont à prix réduit pour les usagers. Il y a aussi un restaurant Les Uns Les Autres où les repas sont à prix, je dirais, démocratique. Voilà, mais sinon, certaines choses qui ont été dites se font aussi à Molenbeek-Saint-Jean.
Merci à vous quatre pour vos interventions et je pense qu'on peut les applaudir. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour d'autres questions, ce qui ne signifie pas que le débat est terminé. Les questions peuvent continuer même hors micro. Merci à vous en tout cas. Henri, je te laisse clôturer.
Je continue dans celui-là. Bon, mais je vous remercie aussi beaucoup. Je suis vraiment ravi. Je n'ai pas de souvenir d'avoir un panel d'un tel niveau, je vous le dis tout de suite, avec quatre styles différents. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup appris de tout ce que je devais encore apprendre. C'est très compliqué. On se rend bien compte à quel point ces matières ne sont pas dans le débat public. Hein. Et dans une ville comme Bruxelles, aussi fracturée à des tas de niveaux, l'idée que vos institutions doivent prendre en charge tous ces niveaux, toutes ces fractures, je suis vraiment impressionné. Je trouve que c'est presque un apostolat d'y travailler. J'ai tendance à dire que les stars de la vie politique à Bruxelles, si elles voulaient prouver qu'elles seraient utiles, devraient investir les CPS plutôt que d'autres instances où on pantoufle plutôt pour la presse. Voilà. Alors, merci aussi à vous. On avait un public de qualité maintenant. Je regrette un peu que certaines personnes que j'identifie bien, qui avaient sûrement des choses à dire, n'ont pas eu le temps de le dire parce que tout a s'arrêté maintenant. C'était la dernière séance à contenu des lundis cosmopolites. On va encore se retrouver une fois, le 4 novembre. Donc voilà, et on essaiera de mettre un point final, un petit peu à la fois sur le concept de lundi cosmopolite. Donc on aborde les problèmes de la ville en ayant un focus particulier sur sa diversité culturelle, qui est quand même assez exceptionnelle, et qui se retrouve d'ailleurs de façon tout à fait emblématique dans la composition de notre panel de ce soir, sans parler de nous deux, qui sommes un bon résumé de cette diversité aussi. Donc j'espère que vous viendrez. On invitera en fait toutes les personnes qui sont déjà venues nous rendre visite pour un peu les faire parler. On essaiera de reconstituer les différents panels, un panel d'experts, un panel de témoins et un panel de politiques. Et on réfléchira aussi à l'avenir d'un forum comme ceci. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui nous suivent un peu depuis le début, ce que vous avez pensé de cette expérience. Elle va s'arrêter le 4. Elle reprendra peut-être un jour avec une interruption. Elle reprendra aussi, si vous le souhaitez, si vous pouvez nous aider à le faire, parce que malgré tout, c'est un travail et ça nous coûte un peu de sous, je vous imagine. Voilà, c'est pas énorme, mais on a besoin d'institutions qui nous soutiennent. Voilà. On pense que des forums de ce genre, c'est utile pour la vie démocratique de la ville. Voilà. On pense qu'un endroit où des acteurs urbains de différents niveaux acceptent de discuter avec un public qui est toujours d'un très haut niveau, le public qu'on a, et je ne parle pas uniquement des gens qui sont physiquement présents, mais aussi de ceux qui nous suivent à distance, Donc, si jamais vous voulez vous réécouter, tous les liens vers les podcasts sont aussi sur le site de Lundi Cosmopolite. Je m'arrête là. Bon, on va tous arrêter là. Merci à tout le monde et j'espère le 4 novembre. Au revoir.
Ce débat a été animé par Mariam Benayad, journaliste à La Libre Belgique, et Henri Goldman, politiste. Il a été enregistré le lundi 7 octobre 2024 à la Maison Commune à Ixelles et retransmis en direct sur les ondes de Radio Air Libre au 87.7 de la bande FM en région bruxelloise. Participaient à ce débat Lucas Chichia du service d'études de la CSC et Yves Martens, professeur invité en droit du travail à la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Vous avez entendu par la suite Myriam Amrani, président du CPS de Saint-Gilles, Nicolas Monfils, président du CPS de Forêt, Lazare Mboulou, vice-président du CPS de Molenbeek-Saint-Jean, et Oumar Diallo, assistant social au CPS de la ville de Bruxelles. Vous pouvez retrouver la série des enregistrements sur le site des Lundis Cosmopolites ou encore sur le site lapsusaloreille.be.